Et bienvenue dans le Paris Central Show. On est avec Dryas, on est avec Basto. On va éplucher l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Ça commence à bouger. On est en juillet. Il va commencer à y avoir des officialisations. Déjà, il y a Lucas Hernandez qui a passé sa visite médicale. On va en parler de Lucas Hernandez d'ailleurs. On a enfin peut-être un indésirable du loft de l'année dernière qui va se barrer. On va parler de Paredes. Il y a la rumeur Joao Félix. On va parler de petites rumeurs mercato et comment jouer avec le nouvel effectif que Enrique aura à sa disposition. Alors, on va commencer tout doucement le live par un petit sujet juste pour s'échauffer. En fonction du mercato qui a déjà été réalisé, où est-ce que vous voyez Zaïre Emery dans la hiérarchie? On va partir sur un milieu à 4-3-3. Vous le mettez combien? Est-ce que vous le mettez 3e, 4e, 5e?
Plus 5. C'est-à-dire, c'est trois titulaires, enfin titulaires. D'ailleurs, il faudrait que ça tourne un petit peu, mais on va dire trois titulaires pour faire simple, un quatrième et lui juste derrière. C'est le premier, le deuxième remplaçant, quoi, en fait. Après, ce serait sans doute le premier remplaçant à un poste auquel je pense, je ne sais pas, moi je vois bien 8-3 dans un 4-3-3. Et pour moi, ce serait le premier remplaçant à ce poste.
Dans un monde normal, il devrait être entre la première et la deuxième rotation, on va dire. Numéro, ouais, c'est ça. C'est pas le premier 8 remplaçants, mais le deuxième. Après, il peut gagner sa place. On sait qu'Enrique, au milieu, n'a pas hésité à lancer des jeunes en sélection. Je crois qu'il a sélectionné Gavi alors qu'il avait à peine 10 matchs pro. Et pareil avec Eric Garcia, qui ne jouait pas City, mais qui était jeune, qu'il avait sélectionné. Donc, il peut faire confiance aux jeunes. Alors, ça, c'était un peu différent, mais bon. Mais donc, c'est un joueur, normalement, que Luis Enrique peut développer et qui a des qualités qui peuvent lui correspondre. Maintenant, titulaire, c'est trop tôt, mais si les titulaires ne font pas le taf, comme ça a pu être le cas les dernières années, s'il le mérite, il ne sera pas trop tôt, on va dire. Mais dans un monde normal, il ne doit pas être titulaire.
Ok, bah, écoutez, on va clôturer sur le sujet Zaïre Emery. On va parler du mercato, pour l'instant, du Paris Saint-Germain. Là, pour l'instant, je crois, on est aux alentours de 132 millions dépensés, quelque chose à quelques millions d'euros près. Pour l'instant, en fonction des 5 recrues qu'on a déjà quasiment bouclées, vous le notez comment sur 10, le mercato du Paris Saint-Germain pour l'instant?
5,5,
t'es dur.
Bah, t'as pas encore répondu. En plus de ça, enfin, tu vois, même 5,5, c'est généreux parce que Ugarte, c'est une très bonne pioche, mais tu prends l'entraîneur ou tu vas te casser la tête pour le faire jouer. Tu te retrouves avec Skriniar, bon, c'est pas encore fait, etc. Qui est un mec qui est cassé en deux au moment où il arrive. Tu te retrouves avec Lucas Hernandez qui est cassé en deux depuis 5-6 ans. Il y a le poste de 9 qui n'est pas couvert, l'incertitude Mbappé. Le poste de 6, avec quel 6 va jouer Enrique par rapport au 6 qu'il aime bien, c'est un putain de dawa. Donc, pour l'instant, rien n'est fait. Quoi. Objectivement, rien n'est fait.
C'est très gentil.
Très gentil. Et toi, Basto, t'en penses quoi du coup?
Pas de 9 de surface, pas de vrai 9 depuis des années, toujours pas là. Pas de 8 qui se projette sans ballon, toujours pas là. Pas de 6 créateurs qui correspondraient à Luis Enrique. Ugarte, c'était bien si un autre coach, mais avec Enrique, ça ne correspond plus. En DC, ça dépendra, comme l'a dit Dryas, de s'ils sont aptes, tout simplement, Skriniar et Hernandez. Et en plus, Skriniar n'est pas forcément le plus adapté pour une défense à deux, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, à l'arrivée, nos priorités, il n'y en a aucune. Qui, à l'heure actuelle, sont là. Après, on refait la déco avec Lee et compagnie. Moi, c'est 3 sur 10, pas plus. Parce qu'en plus, le coach, c'est pas forcément le coach que je voulais. Donc, si on fait le tout cohérence, manquement et recrue, pour le moment, je n'arrive pas à mettre plus que 3.
Pour le 8 qui se projette, Vitinha est capable de le faire. Hein. Il le faisait à Porto. Et tout à l'heure, on a ouvert avec Zaïre Emery et c'est tout à fait le profil d'un Zaïre Emery, justement.
Il se projetait avec ballon, pas sans ballon dans l'espace vide. C'est un peu différent. Ruiz le fait de temps en temps.
Ouais, mais Vitinha, pour le coup, le fait. Vitinha, pour le coup, est capable de le faire. Et à ce titre-là, c'est pas la priorité des priorités, quoi. Je veux dire, le 6 fait vraiment défaut, le 9 fait vraiment défaut, le central fait vraiment défaut. Mais puis même, on pourrait parler du latéral. Du latéral droit, mais voilà quoi. Il y a 8, ça vient après pour moi.
faut pas oublier que dans la note mercato, il y a aussi les départs. Pour le moment, bon, c'est le début du mercato, mais pour le moment, il y a Paredes qui serait sur le départ, mais c'est à peu près tout. On a un Loft qui est monstrueux. On verra ce qui se passe. Et il y a des joueurs qui seront malheureusement encore là en août, ou dont on n'avait pas forcément envie de voir. Et ça rentre dans l'équation. Okay. C'était quoi cette petite compo
C'est bon, c'est la compo.
C'est ce que Dryas, il m'a envoyé, j'ai essayé de le faire en thread, mais c'est automatique, ça s'affiche.
J'ai vu Solaire titulaire, je me suis dit, Nyx a mis Solaire titulaire.
C'est bon. Impossible. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés dans les commentaires. Salut à vous, beaucoup d'habitués. Salut Vincent, salut Laurent. Écoutez, vous n'avez pas été très clément.
Non, mais honnêtement, tu as envie de l'être, Clément, toi, Nix, sur ce mercato? Pour l'instant, à date, hein, à date, on n'est pas à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais en l'état.
En fait, si moi je suis un petit peu plus clément que vous, c'est parce que on est le 1er juillet, on a déjà 5 recrues.
Là, on est d'accord.
Vous demandez un état actuel.
Oui, je sais. Dans l'état actuel, au niveau de, entre guillemets, dans la période dans laquelle on est au mercato, moi, je trouve que par rapport aux années précédentes, il y a pas mal de dossiers qui sont déjà bouclés.
C'est là où on n'est pas d'accord. Parce que
Vincent qui dit Vitinha, c'est 0 passe, 1 but, c'est 5 passes D, 2 buts hein, cette année. C'est un peu plus.
Ouais, et à Porto, c'était des stats qui étaient très différentes. Mais le truc, c'est que là où on n'est pas d'accord, Nick, c'est que tu as deux décès qui arrivent qui ne sont pas des bras cassés, mais qui sont des dos cassés et des jambes cassées pour l'autre, etc. etc. Mais tes deux décès, tu n'es même pas sûr de pouvoir compter dessus. Et le 6 que tu as recruté n'est pas un 6 qui correspond au coach que tu viens de recruter. Donc, si tu veux, à date, il n'y a vraiment pas de quoi... Oui, c'est vrai, on a recruté un peu plus tôt, mais du coup, on a recruté complètement à côté par rapport à nos besoins réels. Non, donc, mais c'est pas...
Je pense que, en fait, avec... comme il a dit à Basto, on a un peu refait la décoration. Et là, que maintenant que Enrique va être officialisé, là, on va parler des vrais dossiers, genre Bernardo Silva, Joao Félix, etc., etc. Mais autour, je pense que quand tu as rajouté, si on prend Kang In Lee ou je sais pas, ou Garté, je pense que qu'on a déjà quand même plutôt bien travaillé pour 30 jours de mercato. Mais par rapport aux autres équipes, je pense que je suis optimiste pour la suite en tout cas.
C'est vrai qu'on a déjà, finalisé, pas officialisé, mais 4 recrues entre Asensio, Lee ou Garté, même 5.
Asensio, je l'avais complètement zappé.
Et Hernandez, ça fait 5 recrues.
Ouais, Asensio, je l'avais complètement zappé.
Donc voilà, écoutez, c'était vos notes du mercato du Paris Saint-Germain au 1er juillet 2023. On fera la même chose au 1er août, on verra si vos notes elles changent.
Elle n'est pas validée, Laurent, la blague.
Pourtant, tu aurais pu la faire, celle-là.
Oui, complètement. C'est pour ça que je ne la valide pas. C'est pour ça que je la valide pas.
Ok, dossier chaud, dossier tendu, mais en fait... J'aurais peut-être préféré avoir Rekoba qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure parce que je pense que vous allez être plutôt d'accord sur le sujet. Du coup, il ne va pas y avoir grand débat. Mais est-ce que pour vous, en cas de départ de Kylian Mbappé, Neymar devrait être, entre guillemets, le nouveau patron du Paris Saint-Germain et comme Kylian l'a plutôt été ces deux dernières années à peu près?
Il en est incapable, je pense. Le Neymar patron en 2017, l'est un peu... Mais il est patron dans l'intentionnalité, dans les faits. Très vite, il va avoir des problématiques de blessures. Très vite, il va avoir des problématiques de X, de Y. Il n'a jamais montré l'appétence qu'avait Kylian Mbappé au leadership. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'il a poursuivi toute sa carrière, Neymar. C'est un problème qu'il a eu à Barcelone. C'est un problème qu'il a eu à Paris. Il a cru résoudre le problème en enlevant tous les patrons et en étant de facto le patron parce que t'es le mieux payé. Il s'est retrouvé avec Kylian Mbappé dans les pattes. Mais en fait, si on fait l'historique, ça a... Avant que Kylian Mbappé soit là, c'était juste au mieux un patron technique. Et à l'époque, c'était un vrai patron technique. Mais il n'a jamais eu cette âme de leader d'équipe, quoi, comme Kylian Mbappé là. Donc pour moi, c'est un faux débat. Est-ce qu'il peut redevenir le leader technique qu'il était? On sait tous que non. Est-ce qu'il est capable de se réinventer? Il nous a montré qu'il en était capable. Mais est-ce qu'il est capable de le faire sur la durée sans tomber dans ses scories? Et puis à quel point il va être présent? Enfin, il y a énormément de questions qui se posent autour de lui. Et avant de vouloir qu'il soit un leader, j'aimerais juste qu'il soit un bon joueur. Mais on est capable, hein, mais...
Comme ça, c'est clair. Basto.
Je pense que Reco, en plus, aurait été d'accord sur le fait qu'on ne peut pas, on peut pas construire de toute façon autour d'un joueur qui est 50% du temps absent. Ça n'a pas de sens de construire un système pour. Donc, si Mbappé part, est-ce qu'il faut Neymar qui est un leader? Je ne suis pas sûr. Il faut arrêter de construire tout autour d'un joueur et cette star system. Le leadership, puis ça dégagera naturellement. Si c'est un screener, je ne sais pas, mais ça ne se dégage, ça s'apprend pas, en fait. Hein. Ramos l'a plus ou moins toujours eu, par exemple, ce côté leadership sur le terrain. Et leader de jeu, ce sera au joueur de prendre la responsabilité. Neymar, je ne sais même pas s'il sera faux neuf, s'il sera ailier, s'il sera 8. On verra comment Luis Enrique le met. Je pense qu'il le mettra dans des dispositions adéquates, puisque c'est quand même un joueur qu'il aime bien et qu'il a plutôt réussi à bien manager à Barcelone. Et ce sera Neymar de. C'est plus même, bien sûr. Mais il connaît l'homme et il connaît le joueur. Enfin, il avait déjà des doutes sur l'homme, d'ailleurs, en disant des phrases comme Neymar a tout pour devenir le meilleur joueur du monde, le sera-t-il, j'en doute. Et il parlait de sa vie en dehors des terres. Donc c'était déjà un cas à l'époque, et maintenant il a 10 ans de plus. Mais donc voilà, Neymar, s'il est performant, il jouera comme tous les autres. J'espère que ce sera comme ça que ça se passe. S'il est moins performant, de toute façon, je crois qu'il jouera aussi tant qu'il est là. Mais construire autour de lui, non. Construire avec lui comme avec les autres, ok. Autour, non. Et autour de personne, d'ailleurs, on n'a plus Messi. S'il n'y a plus Mbappé, il faut arrêter de rester dans ce schéma-là.
Complètement, ce serait bien de construire en équipe, en fait, plutôt qu'autour d'un joueur et capitaliser sur la somme des talents individuels plutôt que d'avoir un talent individuel qui essaye de draguer un collectif. C'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant trop d'années et on est en train de frapper un mur de manière répétée. Donc, changer de logique, ça pourrait être cool. Mais bon, ce ne sera pas le cas parce que de toute façon, Neymar va rester, quoi.
Y a Maxwell justement qui nous dit salut l'équipe, parce que Neymar en 8, c'est crédible pour vous?
Le truc, c'est que t'as un joueur. Après, il fait le pressing, mais le truc, c'est qu'il presse comme un attaquant. Il presse pas du tout comme un milieu. Et du coup, est-ce qu'il aurait cette efficacité nécessaire au pressing que tu pourrais attendre de lui? Après, il a les passes, mais le truc, moi, qui me gêne par rapport à ça, c'est de placer Neymar dans un rôle, dans un poste qui est aussi important et de devoir composer avec le fait que Neymar, t'as des jours où il a des jours passants, mais des jours où tout à coup, il est en mode recherche de solutions individuelles. Si jamais tu mets 8 et qu'il a des jours qui sont comme ça, le mec, à lui tout seul, il te flingue des matchs, quoi.
Compliqué, ouais.
Donc, vous n'êtes pas trop pour Neymar en 8.
Non, trop risqué, je trouve. Ouais,
ça peut être une solution de remplacement sur certains matchs. Maintenant, partir avec Neymar 8, je préférerais partir sur un autre schéma et aller recruter un 8 que d'avoir l'effectif en état actuel.
Ok, bon, les amis, je vous invite à poser pas mal de questions parce qu'on va y répondre aujourd'hui, parce que j'ai préparé des sujets, mais je suis avec les deux intervenants de Paris Central qui sont les plus synthétiques. Ça veut dire que là, en 12 minutes, on a clôturé trois sujets.
Ça va être rapide, sinon, c'est
pas. Parce que j'ai l'habitude peut-être de Barry ou de Recoba qui partent dans des envolées lyriques. Donc là, on est en train de cramer des sujets à vitesse grand V. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là, on va y répondre. Prochain sujet. C'est un sujet qu'on parle assez régulièrement dans le show, c'est le Mercato Ligue 1. Y a un joueur en particulier qui est pas cher, qui est sur le départ du côté de Lorient. Je sais que Basto est un peu fan du joueur. Moi, j'ai une question sans taper vraiment sur Vitinha. Hein. C'est juste une question comme ça. Mais est-ce que Enzo le fait, par exemple, a grand-chose à envier à Vitinha, surtout pour 20 millions?
C'est pas tout à fait le même poste. Enzo, on est plus dans un profil qui est un peu plus 10, même si c'est un 8, hein, mais plus 8-10 que Vitinha qui lui joue un peu plus bas. Enzo va plus marquer. Enzo, par contre, ils ont cette capacité, tous les deux 6 sont libérés. Je pense que Enzo le fait, on aurait eu le même problème que Vitinha l'année dernière. S'il y avait eu Messi, Neymar autour, Verratti à côté de lui, il aurait sûrement eu ce côté où il se désinhibe et puis il commence à faire comme les autres et à faire la passe à Neymar ou à Verratti en oubliant la prise de risque. Ça, je pense que le fait mentalement aurait plongé comme Vitinha. Maintenant, Enzo le fait, ceux qui regardent l'Euro Espoir la semaine dernière, les matchs de poule, c'est encore le milieu de l'équipe de France qui brille le plus. Je ne sais pas pourquoi Ripoll le met sur le banc et ne fait que rentrer. Quand tu vois la différence avec un Khemfrey Thuram, qui lui ne réussit pas réellement ses premiers matchs, il sort souvent à la 60e d'ailleurs parce qu'il n'est pas au niveau. Je vois qu'on s'est positionné, même si finalement ça ne se fera pas. On avait eu des rumeurs sur Kempfrey Thuram à 60 millions. Enzo le fait, il n'y a pas eu une seule rumeur. Quoi. On n'a pas été du tout sur ce profil, alors qu'un joueur qui coûte 20 millions de ce profil-là, pour le coup en plus, qui serait adapté à Luis Enrique, hein, complètement, c'est un peu le jeu à l'espagnol, mais en même temps qui s'est joué direct. Mais on ne s'est pas positionné dessus. Écoute, Rennes va récupérer un super joueur. Je pense que ça fait partie des joueurs de rotation dont on aurait pu se placer, qui ne sont pas trop chers, mais on a peut-être d'autres choix, on verra.
Putain, t'as dit qu'on était trop court, il s'est étendu là, mais
c'est Enzo, c'est Enzo.
Juste petite remarque à Benjamin, elle va être solide ta ligne défensive. Mais sinon, Enzo le fait, si tu peux le faire, c'est un no-brainer. En plus, il a une qualité par rapport à tous les milieux qu'on a. C'est un des rares qui a un côté préférentiel, qui est dans le côté préférentiel et le côté droit, clairement. Et pour ça, il ferait du bien. Et c'est pour ça que je trouve que la comparaison avec Vitinha, elle n'est pas tellement à faire, dans le sens où les deux joueraient très très bien, justement, l'un à côté de l'autre. Moi, la seule remarque que je ferais par rapport à Enzo Lefebvre, c'est que c'est un joueur, il n'est pas dans le cliché pour ça, comme Marco Verratti ou Neymar peuvent l'être, mais c'est un joueur qui préfère qui a une appétence plus importante pour le dribble que pour la passe. Alors, il fait plus la passe que Marco Verratti, mais il se sort des situations, il va plus se sortir d'une situation par le dribble que par la passe. Et pour ce poste, je préfère les joueurs qui préfèrent la passe au dribble. Voilà, mais ceci dit, en termes de qualité, c'est un joueur avec une élégance infinie. Comme je disais, il a vraiment ce côté préférentiel qui est le côté droit où il est vraiment à l'aise. Il a même parfois joué en tant qu'ailier. C'est un profil qu'on n'a pas, c'est un poste qu'on couvre mal. Et pour 20 millions, tu le prends. Il ne faudrait pas le mettre titulaire tout de suite d'ailleurs, dans un monde parfait, même s'il pourrait devenir titulaire très vite, mais plus pour un peu pour du genre l'année d'après, etc., etc. Mais oui, je prends direct Enzo Lefebvre.
Et c'est un milieu, on n'a pas vraiment de milieu aussi décisif que lui. Pour le coup, c'est des 8 qui vont être mettre.
Pour le coup, Vitinha à Porto, il était autant.
Non, Vitinha, j'ai regardé les stats, c'est les mêmes que cette année à Paris. Vitinha, l'année d'avant, je te laisse, c'est 47 matchs, 4 buts, 4 passes D. Donc c'est okay, comme cette année, 2 buts, 5 passes D. Okay. Vitinha est vraiment un cran en dessous, c'est pas le mec qui va faire énormément de.
Je croyais qu'il en avait.
Que Marco, mais c'est pas. Alors qu'Enzo, lui, il fait des saisons.
Ouais, je sais, ouais.
Je pense. Et il n'est pas mauvais, même. Alors, les petits, le problème, c'est que ça, c'est encore, on rajoutera encore un milieu de petite taille. Verratti, Vitinha.
Ouais, Verratti, on va voir s'il reste encore dans les compos hein, tout à l'heure.
Mais oui, en plus, c'est un joueur qui est défensivement bon, un peu frêle, mais qui n'est pas non plus.
Oui, mais il n'est pas mauvais. Enfin, défensivement, il faut regarder un peu ce que c'est Ruiz. C'est quelqu'un qui est capable d'aller récupérer des ballons, etc. Mais il a besoin que l'équipe soit en mouvement pour faire des récupérations. C'est pas lui qui va aller charger le mec en position arrêtée, etc.
Lui, Nix, on parle 20 minutes sur des joueurs qui ne viendront pas.
Ah, vous commencez à vous développer là, c'est bien. Là le temps il passe et bon, vous arrivez à combler. J'espère d'ailleurs que Rekoba il sera réveillé pour 13h. Comme ça, on fera une deuxième partie d'émission avec, comme on a dit, des envolées lyriques. Il va parler pendant 3 minutes.
Il y a une question de.
Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a déjà Vincent qui dit qu'il irait plus vers Savic de la Lazio. Maintenant, on est en train de parler d'un
remplacement. Savic, à un moment, il faut se faire une raison, quoi. le mec, on le traque depuis 5 ans. Il veut pas venir. On le veut pas. Passons à autre chose, quoi.
Je sais pas, il doit avoir un président de la Lazio. Il doit avoir des dossiers sur lui pour qu'il reste.
Ouais, j'en sais rien. Mais il y a un moment, il faut se faire une raison, quoi. Ça fait 5 ans qu'on en parle de Savic, je crois. Enfin, 5 ans, j'exagère peut-être un peu, mais au moins,
je crois. Peut-être plus
pour revenir au truc Ligue 1, il y a en commentaire Wissi Brown qui nous a dit: est-ce que Ludovic Blas ne pourrait pas être pertinent pour le Paris Saint-Germain? Il joue à Nantes.
Moi, Blas, c'est un joueur que j'aime.
Le numéro 10 de Nantes.
Oui, je vois, oui.
C'est un joueur que j'aime bien et je l'avais fait dans mon petit jeu Mercato. Je l'imaginais, même si c'est plus un ailier, il avait déjà joué piston haut dans une défense à 3, mais on ne jouera plus a priori dans une défense à 3. Donc maintenant, c'est plus Lucas Hernandez qui doublera Nuno Mendes. Donc il n'a plus cette qualité-là. Maintenant, sur l'aile, ça aurait pu être un profil, mais il faut qu'il joue, c'est très bien pour lui. Il va à Rennes aussi. Enzo le fait Blas. Bah, Rennes continue à recruter intelligemment. Et voilà, Blas jouera l'Europe. Et le top 5 avec Rennes, c'est mieux qu'aller doubler et être sur le banc au PSG.
Mais tu vois, Enzo le fait, je l'aurais vu un an après, possiblement titulaire.
Alors, oui, non, mais le fait, il avait des choses à titulaire.
Blas, il faut voir un peu plus de temps. Il a besoin. Il n'est plus en post-formation, mais tu sens qu'il est juste après et qu'il a besoin d'enchaîner vraiment.
Il est bon hein, quand même, il est très bon. Là,
ah oui, j'aime, j'ai pas, j'ai pas du tout peur. Bon.
Il est très bon, après il reste en question.
Ah merde, bah, faut pas le prendre.
Il est quoi?
Il vient de Montrougien, il a joué à Montrouge.
Ah.
Là, là.
Ah.
Ouais. Ouais, il y a trop de Montrougien là, c'est pas possible. Faut arrêter.
Oh, salut Montrouge, et on profite pour saluer Châtillon qui est juste à côté. J'ai vu que vous aviez peu de McDonald's depuis hier soir, force à vous. Attends, qu'est-ce qu'on avait après? Ça, on va garder pour tout à l'heure quand il y aura plus de monde.
Foden, petite... il y a Foden aussi.
Ouais, il y a Foden. Petite question, pourquoi on n'a pas entendu parler d'un Foden ou son profil? Ou est-ce que son profil ne colle pas avec le Paris Saint-Germain?
Tu le fais jouer où? C'est le la problématique, c'est comment est-ce que tu joues avec ce joueur? C'est vraiment un joueur de rupture qui est très 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 haut sur le terrain. Il faut que tu aies un 9 pour l'accompagner. Tu le fais jouer en 9,5. Tu jouerais comment avec lui, Vasson? Avec Foden?
Foden, bah, comme Foden en faux neuf ou sur l'aile en cours de match. Mais de toute façon, il a prolongé en octobre à City en long contrat, il a été augmenté. Si, même s'il est sur le banc, c'est un impact player très important pour City, c'est-à-dire qu'il rentre souvent à 30-40 minutes de la fin. Donc je pense que City n'est pas vendeur, tout simplement, déjà. Le joueur n'a pas demandé à partir. Et puis déjà, on doit négocier pour Bernardo Silva. Si on rajoute un autre joueur dans l'équation, on sait que Paris City, c'est pas les meilleurs amis du monde. Donc...
Le truc, c'est que Bernardo Silva, j'imagine sans aucun souci où est-ce qu'il peut jouer, qu'est-ce qu'il peut faire, etc., etc., etc. Foden, dans l'équipe du Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup plus de mal, moi.
Oui, c'est pas le...
C'est pas... Comment on jouerait avec l'effectif qu'on a, c'est
ah, je pense que s'il vient, il serait faux neuf ou ailier gauche, quoi.
Ouais, en mode dynamiteur, quoi.
Mais c'est encore okay.
En parlant de City, il y a tout à l'heure quelqu'un qui nous a dit salut l'équipe, qu'est-ce que vous pensez de Mahrez plus Walker? Moi, je vais juste commencer en disant trop cramé, c'est la fin. Allez-y.
Oh, trop cramé, c'est la fin. je suis en mode synthétique moi aujourd'hui.
Ouais. Walker, c'est quand même un sacré joueur quand il veut. Mahrez aussi d'ailleurs, mais Mahrez, on a là par coup les ailiers ont commencé à être bouchés. Walker, c'est un poste où on...
Non, on n'est pas bouché pour le rôle d'ailier droit avec Mahrez à Paris.
Bah, t'as décidé de faire lui et t'auras Bernardo Silva ou un titulaire.
Oui, si t'as Bernardo Silva, mais si t'as pas Bernardo, t'es...
A priori, on fera un ailier droit, donc ça voudrait dire Mahrez en deuxième ailier droit.
Non, il n'est pas cramé, Rojtala, c'est parce que plus je parlais plus de Walker. Mahrez, c'est autre chose. Mahrez, il va avoir 31 ans. Ouais, les joueurs de 31 ans, ça y est, on a donné dernier gros contrat au Paris Saint-Germain, c'est jamais une bonne idée.
Et en plus, Mahrez, t'as l'impression qu'il va un peu choisir ses matchs. Est-ce que c'est vraiment le genre de profil dont t'as besoin au Paris Saint-Germain? C'est vraiment pas un moteur. Et même quand t'as une équipe qui est motrice, c'est quelque chose qu'on a très bien vu à Manchester City, ça suffisait pas forcément pour qu'il sorte ses gros matchs. Il a sorti des gros matchs, mais il n'y a pas... Tu vois, même quand l'équipe joue bien, lui, des fois, peut passer à côté. Et je pense qu'au Paris Saint-Germain, avec le contexte du Paris Saint-Germain, on a vraiment besoin d'avoir des joueurs d'équipe où, à partir du moment où l'équipe fonctionne, ils vont quasi répondre 99% du temps présent, et ce n'est pas le cas avec Mahrez.
Bah, justement, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi Mahrez, c'est plutôt l'inverse. Et c'est un joueur que j'aurais pris au Paris Saint-Germain il y a deux saisons, par exemple. Mais en fait, c'est un mec, justement, c'est dans les gros matchs qu'il est bon. Et son problème, oui, c'est que dans les matchs lambda, par exemple, tu vas faire un PSG Rennes ou un PSG Ajaccio. Bah là, ce match-là, il va roupiller. Genre, il ne sera pas à son meilleur niveau, il va faire n'importe quoi. Alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on a affronté City, c'est Mahrez qui nous élimine.
On dit la même chose, hein, Nix. Hein.
J'ai compris l'inverse. Déjà.
Moi, ce que je te dis, c'est qu'il suffit pas d'avoir une équipe qui est bien huilée, qui fonctionne, pour que lui devienne bon. Lui, il va choisir ses matchs. Et ce que dont nous, on a besoin, c'est d'avoir des joueurs qui ne sont pas forcément... on a aussi besoin d'avoir des moteurs, mais on a aussi besoin d'avoir des joueurs qui, une fois que l'équipe est bonne, bah, eux aussi élèvent leur niveau pour être au niveau de l'équipe, et ça ne sera pas le cas avec Mahrez. Mahrez, tu jettes une pièce, et de quel côté ça tombe, bah, on verra. Quoi. Et c'est pas du tout... Et dans le contexte parisien, les joueurs qui sont bons par intermittence, bah, on sait comment ça se termine.
Ouais, hein. C'est un peu comme Di Maria dans le côté pile ou face, c'est ce que tu es en train de dire.
C'est un peu différent. Enfin, non, c'est un peu similaire parce que Di Maria aussi, c'était pareil. Mais c'est pas genre du hasard, en fait. C'est pas genre tu sais pas quel match qui va jouer, quel match qui va pas jouer. Si vous regardez bien Guardiola, ce qu'il faisait avec lui, PL, il le faisait pas jouer. Et en Ligue des Champions, gros match, il mettait. Ouais. Il savait
c'est l'inverse. Cette année, c'est l'inverse.
Ouais.
Cette année, Mahrez jouait pas les gros matchs et jouait les petits. Mais alors, il y a Monterino qui dit Mahrez est surtout un top joker. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est un top joker, effectivement. Mais. Non, où, non, il viendra pas à Paris pour être un top joker. Il l'a accepté à City parce que.
Ouais, puis, puis
40 matchs par an. Mais...
Et nous, on a besoin de top titulaire aussi.
Après, à l'état actuel de notre effectif, il le serait, hein, titulaire, mais, oui. Mais bon, je préfère Bernardo.
Pour éviter le tarif PSG, que pensez-vous de l'idée de recruter des défenseurs centraux latéraux au milieu défensif, des guerriers entre parenthèses en Serie A dans les clubs type Sassuolo ou Atalanta?
C'est pas forcément des guerriers, mais.
J'ai pas compris la question.
Ouais.
Recruter, en fait, il y a quelqu'un qui voudrait recruter des défenseurs de Serie A type guerrier, là, les mecs bien costauds, bien défensifs, mais dans des clubs de Serie A, mais un peu moins huppé que l'Inter Milan, tout ça, parce qu'à ce qui paraît, il y a quand même pas mal de joueurs à l'Atalanta et tout ça, notamment leurs attaquants, qui sont plutôt bons, en fait.
La Serie A cette année, mais.
Après, remarque, les joueurs qu'on prend en Serie A, en Ligue 1.
T'es fou, Alain.
Et qui s'exporte, surtout l'exportation de la Serie A, c'est un peu compliqué des joueurs italiens. Je pense à Ciro Immobile, qui est toujours le meilleur buteur italien, mais qui a jamais réussi à Séville et Dortmund. À Scamacca, qui vit une saison très compliquée à West Ham et qui va être rapatrié à la Roma ou à Milan.
C'est, bah, attention, c'est toujours, on n'a pas dit italien, on a dit les joueurs de la Serie A.
Oui, oui, je sais pas. Je sais pas. C'est un championnat que je fais beaucoup que j'ai pas suivi cette année.
Le truc, c'est que s'ils sont si bons, pourquoi est-ce que les top clubs de Serie A se positionnent pas sur eux?
Bah, c'est ce qu'ils font en général. Comment ils s'appellent Bremer. Bremer, ils sortent d'un club comme ça. Que...
Regarde la Juve.
Et puis Bremer, quand il part à la Juve, son prix, il est pas donné. Hein. On parle pas. C'est pas loin du prix de Minja à l'heure actuelle.
Et c'est 40 à 50 millions, ouais, mais et puis il va pas
rester à la Juve. Je réponds juste avant ça, on ne se dit pas que Mahrez serait une mauvaise recrue. Je dis juste que ce n'est pas le genre de profil dont on a besoin. On a besoin d'avoir des certitudes, des joueurs qui nous amènent des certitudes. Avec Mahrez, j'ai du mal à trouver des certitudes. C'est dans ce sens-là, c'est la problématique mentale que je parle avec ce joueur. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole du coup, Basto, sur l'Atalanta.
Non.
Mais Bremer...
Je sais qu'on parle beaucoup. Par exemple, on parle beaucoup. Je pense que l'attaquant que tu parlais d'Atalanta, c'est Ojlund. C'est Ojlund, dont beaucoup de gens parlent, qui est a priori un neuf de surface très costaud, qui marque, etc. Je sais que beaucoup de gens en parlent, mais moi, je ne l'ai pas vu jouer. Donc, je sais qu'il apparaît sur énormément de compos. Si on n'arrive pas à faire Kane et compagnie, je suis en train de regarder 6 sélections, 6 buts avec le Danemark, 20 ans. Bon, il a mis 9 buts cette année, ça a l'air d'être un costaud à la nordique, quoi.
Il y a une bonne question de Shoot Drill, mais je ne sais pas si je fais péter toute l'enveloppe sur lui.
Attends, mais je l'ai noté, la question, c'est le sujet, tu veux aller trop vite. Vous avez fini le sujet sérieux ?
Il est monstrueux, hein, Léo.
Ouais.
Ok. Il y avait une autre question avant, il a dit, est-ce que Luis Enrique va pouvoir changer le capitana ? Et ça, c'est une question qu'on va aborder tout à l'heure parce qu'il y a un sujet Marquinhos, notamment resté avec nous, avec l'arrivée de Hernandez et de Skriniar et la grande possibilité qu'on joue à une défense à 4. On va parler de Marquinhos. On va se demander est-ce que Marquinhos est encore titulaire au Paris Saint-Germain. Mais en attendant, répondre à la question, est-ce qu'il doit changer le capitana sans évoquer le dossier Marquinhos, bien sûr.
J'ai rien compris.
Bah, c'est juste, est-ce que Luis Enrique doit changer de capitaine? C'est pas compliqué.
Ah le truc, c'est qu'on avait un leader d'équipe qui était Mbappé. Si Mbappé reste, on sait qui est le capitaine. Voilà, il n'y a même pas de débat, en fait. Et si Mbappé part, bah, il va falloir en trouver un autre. Marquinhos n'est pas taillé pour être capitaine. Il l'a montré. Et voilà, next. Enfin, je ne sais pas. Après, peut-être qu'il va vouloir s'acheter la paix du vestiaire en lui donnant, mais ce serait une bêtise. Faut pas le faire.
Il faisait pas un espèce de capitaine à tournant aux sélections d'Espagne au début?
Peut-être, je sais pas, j'ai pas suivi.
Moi, je pense que Luis Enrique, il s'en fout qu'il y a le brassard. Hein. Tout le monde, ce sera la même chose. Hein. Il y aura 4-5 leaders, il y a toujours ça dans un club. Après, qui a le brassard?
Ok. Bon, on va arriver à la question fatidique que Dreyas voulait évoquer tout à l'heure. On nous demande, c'est Shoot Drill qui nous demande ça. Il nous dit, est-ce que si on a déjà recruté notre neuf et notre ailier droit, notamment peut-être Kane et Bernardo Silva, et un autre milieu de terrain, et qu'au dernier moment, Mbappé, il se casse pour 200 millions, est-ce que vous faites péter la clause de Raphaël Léao?
Moi, 175 millions. La problématique que j'ai avec ça, c'est pas le joueur, parce qu'enfin, t'as ce profil lié que t'as pas depuis si longtemps et qui te fait défaut. La problématique, c'est que si tu vends Mbappé, en fait, tu vas pouvoir recruter ton neuf et Bernardo Silva, sans doute, si tu vends Mbappé. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu as l'argent pour la clause de Rafael Leao? La question, c'est est-ce qu'il y a la place, est-ce qu'il y a la surface financière? Et l'autre problématique que j'ai, c'est que si t'as pris ton neuf et que t'as pris Bernardo Silva, est-ce que ce n'est pas plus important, dans un premier temps, d'avoir un central qui correspond à la manière avec laquelle joue Enrique, d'avoir un 6 qui correspond avec la manière avec laquelle joue Enrique, plutôt que d'avoir encore une nouvelle arme offensive? C'est une question de priorité. Après, s'il y a l'opportunité de faire Leao, il faut foncer. C'est un profil. On a eu l'illusion de ce profil pendant un petit moment avec comment il s'appelait, le mec de la Juve.
Le mec de la Juve.
Oui, qui est venu au PSG.
Ah, qui est venu au PSG. Ah, Moïse Kean.
Voilà, on a eu l'illusion de ça avec Moïse Kean, mais c'est la version Moïse Kean, version vraiment bon, et il n'y a même pas photo, en fait. Et c'est un très, 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 très bon joueur, donc je le signe tous les jours. Mais est-ce que, par rapport à l'ensemble des priorités que tu as encore la place pour le faire? C'est là où j'ai un énorme doute, même si ce serait avec regret, parce que si tu peux le faire, il faut le faire.
Je pense que ce qui se dit dans la presse, c'est que les 200 millions, on veut les... De toute façon, je ne sais pas si là, ce qu'il dit dans la presse, c'est 200 millions en comptant le départ d'Mbappé ou non. A priori, c'est 100 compter le départ d'Mbappé. Donc, si on a 200 pour faire l'ailier droit et l'attaquant, on a aussi les 200 si on va Mbappé pour faire les AO. Donc, dans ce cas-là, on peut faire les trois.
PlayStation.
Mais bon, j'y crois pas à l'enveloppe déjà. On entend tout et son contraire sur les enveloppes qui sont extensibles puis finalement resserrées. Voilà, si on a 200 millions, oui, dans l'état actuel, Mbappé, enfin, si on a 200 millions de la vente d'Mbappé, je suis comme Daria, je recrute plus un neuf de surface et un mec à droite, qu'un pur remplaçant, d'essayer de chercher le même profil.
Benjamin, ouais, il l'a fait, pendant 6 mois, on a tout kiffé, on s'est tous dit, c'est un grand joueur, puis bon, puis c'était il y a longtemps, ces 6 mois là maintenant. Il est où maintenant, Kean?
Qui ça? Ah, Kean. Mais dans le flop 11 de la Juve?
Oui, non, mais enfin, voilà, c'est un joueur qui était en surchauffe. On en a tous profité, on a kiffé. Au début, on la voyait pas, la surchauffe, mais tu es obligé objectivement de regarder avec un petit peu de recul et de constater qu'il était en surchauffe. Et puis, même le Kean qui est en surchauffe est inférieur au Leao qui est le Leao d'aujourd'hui. Il y a juste même pas photo entre les deux joueurs, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas,
non, je pense pour personne.
Ok, ah oui, il y a le dossier Gabi Vega du Celta Vigo qui est suivi par le Real et Guardiola. On nous dit en commentaire que c'est un milieu très technique, créatif, beaucoup de volume, profil qu'on a besoin, Luis Enrique compatible, il n'est pas très cher et peu connu, mais ça ne plaît pas à Paname. Justement, j'allais dire, au niveau de ce dossier-là, on se rend compte quand même que si on le veut, il est dans un club où le directeur sportif est notre conseiller sportif. Donc, y a le joueur, il a des clauses, je crois. Donc, au final, si on n'arrive pas à le faire alors qu'on a le même DS, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais c'est... En plus, on en parle depuis cet hiver là, dans différents clubs. Hein. Il y a tous les gros clubs qui sont dessus. C'est un joueur qui ressemble un peu à Golovin de Monaco, mais en beaucoup plus fiable et en meilleur. Mais donc, effectivement, ce côté qui peut jouer 8, voire 10, mais c'est plus un 8 haut, qui marque énormément pour le coup, notamment des frappes de loin. Enfin, ça, c'est un joueur qui correspond parfaitement à Luis Enrique, qui correspond au manque du PSG, qui appartient au Celta, donc Campos pourrait faciliter le transfert. Il vaut 40 millions, c'est pas non plus pour un joueur de 21 ans, je crois, c'est pas non plus une somme folle si on lui donne un grand contrat. Et après, en plus, on apprend dans la presse espagnole que Pini Zahavi, qui est son agent, aimerait le placer au PSG, mais le PSG n'y va pas. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On n'y va pas.
La messe est dite, ça sert même à rien. Ce club. Non, mais ce club, quoi.
Salut à toi, le Nordiste. Je comprends pas pourquoi tu supportes un club du Sud. Tu devrais t'appeler le Sudiste. Mais.
S'il passe son temps à regarder des émissions comme ça.
Ouais, et en plus, c'est un mec du Nord qui supporte un club du Sud et qui regarde des vidéos dans le club de la capitale.
Bah, écoute, je pense qu'il s'intéresse au football en général.
Ben bah, voilà, ouais. Voilà, tout à fait. Bah, bienvenue à toi.
Attends, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne vois pas pourquoi on ne se penche pas sur Vlahovic. Je pense que ça a été discuté en interne.
Le message d'après, il a fait une faute de frappe. Il a appelé. Il avait
Allez, Laure.
Allez, Laure.
Moi, je pense que Laure, c'est mieux que l'argent déjà. Donc là, au moins, tu ne te trompes pas dans tes choix. Tu devrais choisir tes clubs comme tu choisis tes matières premières, la Nordiste.
C'était quoi la remarque?
C'était sur Vlahovic.
Ah oui. Bah écoute, je pense que on a des priorités qu'ils ont compliquées à faire, qui s'appellent Kane en plan B, c'est aussi complexe, aussi mène, c'est trop cher. Et je pense que quand on aura écumé plusieurs noms qui ne peuvent pas venir, on va revenir sur Gonzalo Ramos et Vlahovic. À mon avis, on risque de entendre parler d'ici quelques semaines.
Mais je préfère Vlahovic entre les deux. Ramos, c'est, pour moi, c'est vraiment trop tôt.
Il a une pubalgie, Vlahovic, nous dit Vincent Castel.
Ben, le truc, j'ai vu passer un message sur Ugarte, ouais, de Vincent. C'est le souci, c'est pas Ugarte, c'est Ugarte plus Enrique. Enrique, tu regardes quand il était à Barcelone, tu regardes quand il est en équipe d'Espagne, tu regardes à peu près partout. À chaque fois, il a mis des 6 qui étaient des quarterbacks, en fait. L'archétype du 6 qui est compatible avec Enrique, c'est Busquets. Et ben, Ugarte, c'est vraiment pas ce profil-là. On pourra le faire peut-être jouer ailleurs, mais pas en 6, quoi.
J'essaie de réveiller Recoba, je viens de lui dire debout. On a répondu
Simons aux questions. Seul avec Enrique, oui, Simons peut coller avec Enrique dans les postes d'attaque, que ce soit sur l'aile ou en
fond. Merino.
Merino est très bon de la Sociedad. Mais Merino, ce serait un 6 pour Enrique. Je ne sais pas trop son prix, mais Merino fait une grosse année à la Sociedad, qui est une équipe très collective. C'est le 6 que peut aimer Enrique. Maintenant, je pense que c'est cher.
Ok. On attendait Monsieur Recoba, mais il semble qu'il soit encore en train de ronfler. Donc, on va continuer sur les sujets qu'on avait prévus. On va revenir aux questions tout à l'heure.
Brozovic, malheureusement, Vincent, il part en Arabie Saoudite. Hein.
Mais ce serait ça, c'est lui, ça aurait été vraiment intelligent, quoi. Mais bon.
Ouais, Brozovic. Tu vois, il y a typiquement plein de joueurs de 30 ans et tout ça qu'on n'aurait pas dû prendre, que c'était des fiascos. Mais celui-là, c'est vraiment pas le moment de changer cette politique-là. C'est pas sur ce joueur-là qu'il faut la changer, la politique. Franchement, là, c'est le mec... Je crois que Thiago Motta, il est arrivé au Paris Saint-Germain quasiment à cet âge. Et pourtant, c'est le mec qu'on n'a jamais réussi à le remplacer. Et s'il y a un mec qui pouvait, à la limite, le remplacer, c'est bien Brozovic.
Mais bon... Je sais pas. Je crois qu'il nous a refusé il y a un ou deux ans.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Drexigno. Mais est-ce que tu as envie de partir en titulaire avec lui dès cette année? C'est la problématique.
Qui? Tu parles de quel joueur?
Jonathan David.
David. J'aime beaucoup ce joueur. Hein.
Est-ce que tu as envie de partir avec lui titulaire dès la première saison?
J'ai envie qu'il reste à Lille pour continuer à regarder mon petit Lille de Fonseca. Il est très bien là-bas. Je prends beaucoup de plaisir dans les matchs de Lille.
Si Mbappé part, tu as besoin d'un neuf titulaire, en fait. Donc, du coup, est-ce que David, c'est assez tôt ou est-ce qu'il ne lui manque pas une saison? Mais après, c'est un délice, ce joueur. L'idéal, ce serait presque de l'acheter pour le prêter une saison au club où il est et ensuite de ça, le récupérer.
Du coup, Nix, avec toutes les questions qui défilent, on va finir à 17h, tu vois.
Grave, grave. Attends, je suis en train de les noter. On va reprendre le fil de l'émission. On va aborder le cas Marquinhos. Je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure. Avec l'arrivée de Hernandez et de Skriniar dans la défense à 4 de Luis Enrique, s'il compte bien jouer en défense à 4, parce qu'il pourrait nous surprendre et rester à 3 derrière, sait-on jamais. Dans ce système A4 derrière, est-ce que pour vous Marquinhos est toujours titulaire au Paris Saint-Germain?
Malheureusement, tous les jours.
Ah ouais,
ouais.
Vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. Si j'avais le truc de l'équipe du soir, j'aurais mis habillage.
Le duel.
Un contre un. Vas-y Dryas, on te laisse commencer.
À 20 secondes.
Mais tout
d'ailleurs,
simplement.
D'ailleurs, mettez en commentaire qui vous aura le plus convaincu. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Ouais, non, mais gens... dans ce cas-là, je peux répondre. Ou dans ce cas-là, Sébastien qui commence. Parce que comme ça, je peux répondre à ses arguments.
Ah non, t'as commencé, t'as voulu prendre la parole.
Dans ce cas-là, Non, j'ai pas voulu commencer.
Bah
c'est toi qui as commencé. Zedraïas commence. Donc,
À la fin, dites-nous bien en commentaire qui vous a convaincu, si c'était Draya ou si c'était Basto.
Tout simplement, en fait, si vous voulez, les trucs qui est tout bête, c'est que les deux recrues qu'on vient de prendre seront pas forcément présentes. Hein. Lucas Hernandez, partir du principe qu'il sera là une saison, c'est se raconter peut-être des histoires. Après, Lucas Hernandez aurait été très compatible, mais si on prend Skriniar, est-ce qu'il aurait été compatible avec Luis Enrique? J'en suis pas sûr. Et si ensuite on regarde l'effectif, et tu t'aperçois à l'arrivée que le seul défenseur fiable sur une saison qui correspond à la manière avec laquelle joue Enrique, c'est Marquinhos, et donc par défaut, tu le mets.
Alors Skriniar s'est fait opérer, il est revenu avec la Slovaquie, il a joué deux fois 90 minutes, a priori il est en forme, il fera la prépa, donc lui, on peut compter sur lui dès le début de saison.
Oui, mais Lucas, il n'a pas de profil.
Lucas a fait des saisons assez complètes, le problème c'est qu'il a souvent des grosses blessures. Et comment il va revenir des ligaments, c'est une autre question. Après lui, il est axe gauche, donc c'est plus Marquis Skriniar qui pourrait être en concurrence, même si Marquis peut jouer axe gauche. Lucas ne peut jouer qu'axe gauche, il ne peut pas jouer axe droit, déjà il part avec un déficit par rapport à deux. Mais est-ce que Marquinhos... est-il titulaire? Non, si les trois sont aptes, tu fais ce que font tous les grands clubs, c'est-à-dire que tu pars avec trois décès sur le même plan et tu fais jouer les deux meilleurs.
Mais la seule problématique, c'est que Skriniar n'a pas le profil. Enfin, moi, je le vois pas du tout.
Une meilleure relance pour Enrique que moi, je vois plus Skriniar que Marquinhos dans le jeu Enrique. Hein.
Bon, peut-être, mais moi, je pense pas à ça. On verra, mais je pense pas. Et pour moi, si tu pars à deux, en fait, c'est le seul qui est fiable sur une saison. Mais bon.
Du coup, qui est-ce qui vous a convaincu sur ce dossier? Déjà, Marquis, c'est qui le barjo qui l'a appelé capitaine Courage? Franchement, je sais pas.
C'était quand il avait 20 ans.
Y a plein de questions aujourd'hui. Merci de poser des questions. Quand je suis un petit peu perdu. Fred le RX nous dit que c'est Basto qui a convaincu. Pour l'instant, il n'y a qu'un vote.
Non, par contre, évidemment, comme dit Hydrivox, Marquis jouera pas mal de matchs. Marquis sera même celui qui joue plus de matchs des trois parce que c'est le plus fiable. Mais dans les gros matchs, les trois sur la même ligne, je sais pas. Je suis incapable de dire qui sera titulaire.
Salut tout le monde. Dites-moi comment tu fais une visite médicale sur un joueur blessé. Je crois qu'il est plus blessé. Hernandez, ça y est, il est revenu.
Ouais, il est revenu en avril à l'entraînement à Munich sans rejouer. Mais il était revenu de... Ouais, il a été opéré, il a repris l'entraînement en avril.
C'est Bastou qui m'a convaincu, nous dit Jordan, Maxwell aussi, ça fait 3-0, lâche la manette, Dryas, tu as perdu. Ok, en parallèle, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé une question, j'avais dit que j'allais lui faire un big up, d'ailleurs je crois qu'il est avec nous, salut à toi Maxwell qui nous a posé une question... sur la chaîne hier, quand j'ai demandé des questions et qui nous disait, ça continue sur le dossier Marquinhos, j'aimerais connaître votre opinion concernant l'option Marquinhos en numéro 6. Qu'en pensez-vous, un choix cohérent pour Enrique? Donc là, on a dit peut-être qu'il n'aura pas sa place en défense, mais est-ce que, contrairement à Danilo, il ne va pas faire le chemin inverse, est-ce qu'il a sa place au milieu de terrain?
Ok, ouais. Alors déjà Monterreño, les mecs qui cartonnent en visite médicale, on en a déjà vu beaucoup par le passé, ça augurait pas forcément de bonnes choses par la suite. Sinon, Marquinhos 6, vu et revu, il y a c'est un espèce de truc qui bride. À l'époque, on criait au génie pour finalement crier à la fraude, où tu joues avec une fausse défense à 3, qui est un vrai milieu à 2, qui est une fausse défense à 3, ou etc. Ça correspond pas du tout à la manière avec laquelle veut jouer Enrique, de tout ce que j'ai pu voir de lui. Et Marquinhos en 6, en fait, il y a 4 ans, Marquinhos était peut-être le joueur qui avait le plus de transversales en Europe par match en moyenne et qui avait le taux de précision le plus élevé au niveau de ses transversales, mais c'était le Marquinhos d'il y a 3-4 ans, peut-être même un peu plus. Depuis, Marquinhos, au niveau du jeu long, au niveau de la relance, c'est devenu au mieux médiocre bien, mais jamais vraiment plus haut. Et le mettre dans 6, c'est encore plus nécessiter ça avec la manière avec laquelle veut jouer Enrique. Donc pour moi, c'est même pas une question, ça n'arrivera pas. Tout simplement, je pense que ça n'arrivera pas.
Je vais te prévenir qu'une seule fois, le nordiste, soit tu arrêtes de spammer, soit dans la seconde qui suit, tu es bloqué. Je te laisse continuer, Basto.
Ouais. Mais je suis d'accord avec Sancho. Hein.
Oui, bah ça, sur l'utilisation de Marquinhos, de Gatier, je pense qu'on sera tous d'accord.
De toi.
Non, je pense que Enrique est plus un joueur qui va reculer un 6 en défense qu'un joueur qui va avancer un DC au milieu. Donc, je ne pense pas que Enrique penchera sur cette solution. Donc non, j'y crois pas. J'y crois pas avec Enrique. Avec d'autres coachs, ça aurait pu être le cas. On l'a vu. Après, en plus, Marquinhos, est-ce qu'il en a envie ? Je suis pas sûr non plus. Donc, sous Tourelle, c'était une bonne idée. Marquinhos a bien marché. Sous Enrique, je ne pense pas que le coach y pensera.
Ok. On a une bonne nouvelle, les gars. Enfin, ça dépend pour qui. Si vous êtes affilié à Sinbad, peut-être que non. Mais là, on va se débarrasser de Paredes. On va se débarrasser de... Putain, je me rappelle même plus de son prénom maintenant.
Leandro
Paredes, on s'est débarrassé.
Kaipi Paredes.
On va se débarrasser de ce nulard qu'on a acheté 47 millions et qu'on a vendu quand même 3 millions. Quel moins value.
Bon, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Je l'ai déjà oublié, moi. C'est qui ?
Ah, mais justement, j'avais oublié son prénom carrément.
Non, mais... Paredes, il y en a qui commençaient à reprendre espoir hein, sur « Ah, il y a Enrique, il va faire revivre le football, Paredes, ça lui correspond. » Je pense que Enrique, je l'avais développé la semaine dernière, ça ne lui correspond pas. Et a priori, il n'a pas été très insistant puisqu'on se débarrasserait de Paredes à Galatasaray pour 4 millions. Mais en fait, c'est un non-sens. Qui va prendre Paredes à 15-20 millions avec le salaire qu'il a alors qu'il a plus qu'un an de contrat et qu'il peut signer libre dans 6 mois. Donc les clubs soit attendaient et on se retrouvait bloqué un an avec Paredes, ce qu'il ne faut mieux pas, soit on le bradait et on touche quand même 3-4 millions plutôt que le vendre gratuit et d'avoir un an où ce sera un poids dans l'équipe. Donc c'est pas cher, c'est sûr, mais bon, il n'y avait pas d'autre choix en fait.
Il fallait qu'il parte.
Oui. Merci Galatasaray d'ailleurs, Icardi, Paredes, ils veulent pas, Renato Sanchez là.
Bah, c'est eux qui doivent nous dire merci quand même, parce qu'ils ont réussi à attraper 3 joueurs.
Puis ils réussissent là-bas, Icardi a fait une bonne saison. Mais c'est bien pour eux, c'est un bon deal. De bon sens.
Alphonso Davies, il veut partir du Bayern ?
Non, mais s'il part, ce sera pour le Real. En
tout cas. Oui, voilà.
Avec Nuno Mendes, on va pas.
Oui, en plus.
Qu'est-ce qu'il dit sur Paredes ? Moi, j'ai aimé Leandro Paredes, c'était pas mal, Drake Signo. Renato ne veut pas partir, nous dit Cyril. Oh mon Dieu.
Ah, Paredes voulait pas partir.
Il y a aussi Leandro Bartefes.
Ah oui, il est pas mal celui-là aussi. Quid de Draxler ? Galatasaray, s'il vous plaît, vous avez oublié Draxler. Celui-là, même gratuit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et lui, on avait acheté 35 millions, je me rappelle, la moins-value encore. Est-ce qu'on a déjà fait des plus-values sur un joueur, peut-être Gonzalo Guedes
ouais.
Gonzalo Guedes.
Aurier
mais sans... ouais, on l'a acheté à Toulouse, c'est pas
un Nkunku, ça fait mal, mais Nkunku avait été très bien vendu.
Ouais, mais c'est pas une plus-value parce qu'il est formé au club.
Si on cherche une c'est vrai, oui.
C'est sûr, c'est une plus-value, il y a Aurier. Il n'y en a pas fait des masses.
Il n'y en a pas fait d'autres plus-values.
Berchiche, c'est pas à peu près une toute petite plus-value dessus. On n'achète pas 15, on ne revend pas 20, un truc comme ça.
Je pense pas. On a vendu Lo Celso. Peut-être qu'on a dû faire une plus-value sur Lo Celso. Les deux ventes de Enrique qu'il avait fait l'été 2017, je crois, ou 2018, je ne sais plus, Lo Celso Guedes, je crois, c'est la seule fois où on a fait des plus-values. Et le joueur le plus cher qu'on ait vendu, nous dit Cyril, c'est Guedes à 35 millions.
Plus gros
vendre, comme le Paris Saint-Germain, c'est...
40 millions, c'est...
c'est terrible.
Ça monte à quel point on ne veut pas vendre et on ne sait pas vendre. Mais
Quoi, on va pas le
compter. Ah oui, Baker plus-value, il a raison, notre Sébastien Disco. Belle plus-value sur
Michel. Baker, Ronaldinho aussi, oui, ça remonte. Ok, bon, je t'avais prévenu le nordiste, je lance le prochain sujet, dis tes au revoir, dis tes adieux à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y avait comme sujet ? Ah oui, bah, vous aviez préparé votre système idéal dans lequel devrait jouer Luis Enrique avec l'effectif actuel. Qu'est-ce que vous auriez fait avec l'effectif actuel et avec Luis Enrique ? Je te laisse commencer, Basto.
Avec l'effectif actuel, vraiment. Mais on compte les 5 recrues qui vont arriver ou
avec les 5 recrues, ouais.
Je ne crois pas. En fait, ce qui est compliqué, c'est que je ne crois pas à la défense à 5, mais le but de recrutement est pour une défense à 5. Donc, l'effectif actuel, moi, je veux jouer en 4-3-3, surtout même avant que Luis Enrique arrive, je souhaite oui, jouer en 4-3-3, donc ça ne va pas changer avec ce coach. Effectif actuel, pour moi, il n'y a pas trop de choix en défense. Hein. Nuno à gauche, Hakimi à droite, Lucas Hernandez, axe gauche, et Marquis, axe droit avec Skriniar en concurrence avec les deux. Milieu à 3, mais... Le problème, c'est que j'aurais bien aimé mettre Ruiz, mais il s'entend pas.
Moi, je l'ai mis, hein, Ruiz. Moi, je l'ai mis, Ruiz. Je suis parti du principe que ça, je m'en foutais parce qu'avec Marco, c'est impossible.
Tu le peux but cette semaine que le club voulait le vendre et qu'Enrique était pour le vendre. Donc,
avec Marco, c'est impossible.
On va pas partir sur ce que je joue, on va partir sur ce qui est le plus crédible avec Luis Enrique. Il va mettre Verratti 6, il va mettre Ugarte en 6, chien de garde haut. Il va mettre un 8 un peu plus haut, je sais pas qui. Qu'est-ce qu'il serait capable de nous mettre
Vitinha.
Ce sera Vitinha, je pense, mais Ugarte, Verratti, Vitinha. Non, il serait capable s'il met Ugarte et Vitinha. Non, mais on n'a pas. On a personne, et
Vitinha a plus de liberté. Vitinha a plus de liberté parce que justement, tu as Ugarte qui est. On t'entend pas bien, Basto.
Je dis pour Nick, s'il y aurait Solaire en 8, juste pour lui faire plaisir.
Mais t'as, tu sais, Ugarte aurait des responsabilités, il serait en mode chien de garde un peu à la De Rossi avec un Pirlo. Et t'aurais Vitinha qui aurait plus de liberté. Mais le truc, c'est que tu fais ça avec Marco, c'est jamais ça fonctionne. Parce que Marco restera en permanence à côté d'Ugarte. Il fera des passes de 1-2 avec Ugarte 80% du match. Ça sera insupportable.
Et du coup, en attaque, effectif actuel, il partirait sur un Neymar Mbappé Asensio, je pense.
Neymar Mbappé Asensio. En 4-3-3 ?
Bah ouais, mais il y a Asensio à droite, Mbappé à gauche, Neymar en faux neuf. Je vois pas, en fait, je vois plus, on a personne, il va pas partir avec les titulaires. Hein. Asensio, il le connaît bien, il l'aime bien en équipe d'Espagne. Pour le moment, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut des recrues devant et au milieu avec urgence.
Ce qu'on voit dans les commentaires, c'est que tout le monde n'est pas convaincu qu'il va jouer en 4-3-3. Il y a plein de gens qui pensent qu'il va jouer en 4-2-3.
C'est, oui, mais
c'est possible.
C'est une nuance, c'est pas un 8, c'est en 10, c'est pas une énorme différence.
Bah si, quand même, parce que là il te faut deux ailiers de type de percussion en général pour un 4-2-3.
C'est vrai. Mais est-ce qu'on les a oui, non, mais oui, avec Neymar.
Et puis tu joues pas avec un faux 9 dans un 4-2-3 non plus d'ailleurs.
C'est ça, t'as besoin d'un 9 dans un 4.
Alors, moi justement, c'est Verratti en 6, pour moi, ça fonctionne pas du tout avec ce système-là.
Attends, je t'affiche ton truc.
Moi, c'est bon, mais en fait, Verratti en 6, ça fonctionne pas du tout, et c'est pour ça que j'ai viré Verratti. Alors, moi, j'ai mis.
Ah, l'ami Danilo, quelle horreur! Danilo
à côté, j'y crois pas à Lucas Hernandez, je le vois absent 9 fois dans l'année. Non, mais Skriniar, j'y crois pas du tout.
Mais il veut que relance, tu mets Danilo.
Alors bon, Danilo. Mais attends, tais-toi. Danilo Marquis, donc moi, je mets Ruiz au milieu parce que pour moi, c'est la seule solution en fait pour fonctionner. Il a besoin d'avoir ce truc-là. Et effectivement, Ugarte un peu à la De Rossi en chien de garde avec Vitinha qui, lui, a vraiment la responsabilité offensif à gauche parce que tu as Neymar qui va occuper tout la. Offensif à droite parce que tu as Neymar qui va occuper tout le côté gauche et tu as Soler qui reste au centre, qui est vraiment là pour la circulation du ballon. Et je pense que ce système-là, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Après, la problématique, c'est qu'il y a un joueur qui se blesse énormément dans ce système, et j'aime pas mettre des joueurs qui se blessent énormément, c'est Neymar. Mais alors là, pour le coup, tu n'as vraiment pas le choix. Et je pense que ce système-là, ça pourrait tenir la route. Parce que défensivement, une fois que Vitinha s'est projeté, tu te retrouves avec un Ruiz et un Ugarte qui se rapprochent, tu as presque un milieu à deux. Dans les phases sans ballon, tu te retrouves avec un milieu à trois. T'as Soler qui en branle pas une, t'as Neymar qui aidera, t'as effectivement deux joueurs qui aident pas au niveau de l'impact défensif, mais t'as une bonne couverture du terrain. T'as Hakimi qui a beaucoup plus de liberté sur son côté droit, mais t'as Marquis qui est capable de faire les deux, et t'as Nuno qui, lui, a plus de responsabilité, qui restera un petit peu plus derrière parce que le côté gauche est plus occupé avec Ugarte et Neymar. Mais je pense que t'arrives à quelque chose de relativement équilibré.
Mais, dis-moi, t'as fait cette compo à quelle heure et t'étais à combien de grammes pour mettre Soler titulaire, s'il te plaît?
Ah ben Soler, c'est la meilleure. Enfin, le truc en fait, si tu veux, c'est qu'au début je mettais pas Soler. Alors effectivement, il y a Asensio, mais je suis pas plus convaincu par Asensio que ça.
Non, tu te feras Luis Enrique, pas toi.
Ouais, mais moi je me dis qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse. Voilà, moi c'est à ça que j'ai répondu.
Alors, je peux et... Après, je réagirai sur.
Okay, mais alors juste et Solaire, je suis désolé, si Solaire, tu le mets dans un système comme ça où il peut être servi par deux, trois personnes, et il peut être touché de manière fréquente, c'est un joueur qui va savoir te redistribuer la balle extrêmement vite et ça va te procurer énormément d'occasions. Ah. Et très sincèrement, en mettre trois devant, à moins de choisir de mettre Asensio, mais c'est compliqué d'aller chercher les trois dans l'effectif actuel du Paris Saint-Germain.
Ah oui, c'est compliqué devant.
Donc oui, Solaire, c'est un peu par défaut, mais c'est pas un choix qui est si incohérent que ça et qui sera pas, pour moi, c'est porteur de beaucoup d'occasions.
Au milieu à 3, c'est celui que je ferai. Maintenant, Luis Enrique, je te dis, mettra Verratti.
Oui.
Danilo, c'est rapidement, système en 4-4 de losange, sachant que Luis Enrique construit tout par l'axe, et dans ton axe, tu commences avec Danilo.
C'est un 4-3, c'est un
4-3. C'est un 4-3, c'est une animation qui a principalement sur l'aile, quoi. Et là, t'as pas d'ailier, t'as tes deux pistons.
Oui, ça va être acquis. Non, même Nuno a une très grosse responsabilité. T'as Neymar qui est un peu ailier, mais Nuno a une très grosse responsabilité de def, et Hakimi, lui, se comporte vraiment comme ailier. T'en as qu'un seul, en fait. T'en as qu'un seul.
Il y a Cyril qui nous dit, mais le petit Emery à la place de Solaire.
Non, pas à ce poste-là, certainement pas. Certainement pas, il est inintéressant à ce poste-là. C'est pas un distributeur. Non, le Emery, c'est le remplaçant naturel de Vitinha, tout simplement, ouais. dans ce système-là. Il n'est pas 10. Il n'est pas 10, Warren Zaïre-Emery. Il a des très bonnes qualités, mais il n'est pas 10.
Par contre, honnêtement, en vrai, on parle de Danilo, mais Danilo, il va partir, je pense.
Pourquoi?
Mais parce que Enrique, il l'utilisera ni en 6 ni en DC, je vois pas.
Danilo, il surprend.
Danilo, c'est comme on a dit le 9 la semaine dernière, je pense qu'il va surprendre tout le monde.
Et tu sais, quand tu auras ton Lucas Hernandez qui sera à l'infirmerie, que tu auras Skriniar qui sera à l'infirmerie et qui laissera Danilo, et tout à coup, tu as Danilo qui fera un match et Danilo pourrait commencer
parce que ce n'est pas la qualité qu'il veut, c'est la relance. Danilo, il n'aura jamais cette vitesse à la relance d'exécution.
Désolé, Alex, hein, j'espère que ton repas n'était pas trop mauvais parce que sinon, tu as dû le regoûter deux fois, mais... Tu peux dire ça, mais après, revois les matchs que Soler faisait. C'est un joueur qui est intéressant, qu'on a extrêmement mal utilisé l'année dernière. On l'utilisait de manière... Après, la question, c'est comment est-ce que t'animes ton jeu? Et si tu arrives à trouver une animation où les qualités de Soler sont mises en avant, je suis désolé, moi, ça ne me fait pas vomir. Et moi, je me dis, ça peut être une bonne idée. Après, tu me donnes...
Soler est un joueur qu'apprécie Enrique, hein.
Tu me donnes Bernardo Silva, jamais je te fais cette compo. Mais Bernardo Silva, il n'est pas là, en fait.
Luis Enrique va pomper Danilo et en faire son Rodri. Oui, non, quand même pas. Danilo ne deviendra jamais Rodri, faut pas.
Non, mais attention, parce que vous vous rappelez qu'on jouait en 4-3-3 possession, etc., avec Laurent Blanc. On disait, ouais, Matuidi, pied carré, Matuidi, pied carré. Oui, mais c'était un jeu de possession. On avait des fois 70-80% de possession, surtout en Ligue 1. On disait, Matuidi, pied carré, nanana, nanana. Mais on dit souvent que, entre guillemets, l'absence de Botet n'a jamais été comblée, mais celle de Matuidi, elle nous a fait mal aussi. Il n'y a personne qui l'a remplacée.
Le truc, en fait, c'est qu'on avait 70% de possession, c'était jusqu'au moment où Matuidi touchait la balle, en fait.
C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon. Pour respecter le soldat Matuidi, attention, c'est Matuidi Charo.
En fait, on a bien recruté. C'est pas qu'on n'a pas remplacé Matuidi, c'est qu'on a soit en soi Matuidi, Mota manque vraiment Matuidi, non, mais on a décidé de pas prendre de 8 qui se projetaient sans ballon, donc forcément, c'est toujours une question de manque de profil. Matuidi, est-ce que Mota est plus dur à remplacer qu'un Matuidi? Normalement, Matuidi aurait pas dû être dur à remplacer.
Bah, il y a justement là ce qui nous dit que Ugarte, ça va être le futur Matuidi.
Non,
je crois pas. Je crois pas de ce que j'ai entendu. Après, je le connais pas encore très très bien, Ugarte. Je vais pas mentir, mais de tout ce que j'ai entendu, tous les observateurs, c'est là dans le milieu, en fait, tu vois, avec Enrique, tu le mets 8, il va te faire du De Rossi, en fait. De Rossi, quand t'avais Pirlo à côté, ou de Gattuso quand c'était en sélection, il va te faire ce genre de truc. C'est le mec qui va défendre pour 3 pour permettre aussi ce qui est capable de relancer d'être relativement libre. Et c'est pour ça que si tu mets Ugarte et Marco en même temps sur un terrain, attention, quoi. Parce que Marco, il va vouloir être à côté de son chien de garde, ils vont commencer à se faire la passe à deux, ça va être Ugarte qui va limiter en majorité, à part les quelques passes longues que tentera Marco Verratti, mais c'est la majorité du temps, ce sera Ugarte qui lancera en profondeur.
Ouais, il lance jamais en profondeur, Ugarte.
Voilà, mais c'est pas ça. Ce que tu veux. Donc, c'est pour ça. Enfin, Marco Verratti ou Ugarte en même temps sur un terrain, c'est à mes yeux, hein, je peux me planter, mais à mon avis, tu vas dans le mur, quoi.
Mais j'ai vu pas mal de gens qui mettent Ugarte, notamment toi dans ta compo, et plein de gens dans les commentaires qui le mettent en 8. Je
Ah, c'est
vois pas
Enrique.
où est-ce qu'il peut être 8 à Ugarte.
Bah, c'est Enrique. Et souviens-toi, ouais, du Milan avec Pirlo, des clubs dans lesquels a joué Pirlo. Tu avais toujours un chien de garde à côté, en fait. Tu reproduis le schéma qu'il y avait avec Pirlo, en fait.
Ugarte,
Bah,
il a jamais
à ce moment-là, il y a un seul fou qui a fait ça, c'était Pochettino quand on jouait à un truc, et à un moment, il a décidé de
Danilo
mettre
relayeur.
Danilo en 8.
Bah
Mais ce serait genre faire à peu près la même chose avec Ugarte, peut-être.
ouais. Oui, mais la
Ah,
question c'est qui est. Ah, pardon, pas si passons.
oui, de toute façon, Ugarte, il a joué que dans un milieu à 2, il n'a jamais joué dans un milieu à 3. De base, c'est un 6, on dit, parce qu'il a ce profil défensif et qu'il passe pas beaucoup le milieu. Mais ton premier 6 qui sera un relanceur, parce que Luis Enrique, c'est ce qu'il lui faut, un 6 technique qui va faire la première relance, Ugarte qui est devant pour chasser haut. Et puis quand Paris a le ballon, le 6, il peut être plus haut qu'Ugarte qui serait derrière, c'est pas un problème. En fait,
Plus ou
c'est
moins
pas
sur
un
la même
problème.
ligne,
Mais
tu
c'est
trouves ton
juste que le
cercle au milieu à
relance,
deux,
le
quoi.
6 doit être un relanceur. Après,
Ouais, c'est ça.
sur la position moyenne, ce
En
sera
gros,
pas.
tu as un 8 qui a une liberté sur le terrain, et là, dans le système, c'est Vitinha. Tu as un 6 qui est ton quarterback, et tu as un mec qui est le chien de garde entre les deux qui va couvrir toutes les brèches, quoi. Et c'est dans ce rôle-là qu'est Ugarte. C'est
Voilà.
le milieu. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne défendent pas, hein, mais le milieu qui est clairement défensif, c'est ton 8 ici. Dans ce système-là.
Ok. Ouais, quand tu as imagé ça avec le Milan de Pirlo, Gattuso-Seedorf, je comprends mieux.
Ou avec De Rossi quand c'était à la Roma, etc. etc. Enfin, je sais plus, là je confonds l'historique de Pirlo, mais il y avait des moments où il était avec De
Ah oui,
Rossi en
le
chien
mec
de
à la
garde aussi.
Roma. En Italie, tu veux dire, avec la
Ouais,
sélection.
voilà, peut-être, ouais, je confonds. Hein. Mais il y avait des moments, en gros, il avait soit Gattuso, soit De Rossi, et voilà, il avait son chien de garde.
Pirlo, Pogba,
Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme sujet? Marquinhos. Ah, bah, il reste deux choses. Déjà, Lucas Hernandez qui est plus ou moins arrivé au
Marquisio.
Paris Saint-Germain, même si ce n'est pas encore officiel. Est-ce que vous êtes optimiste pour la saison à venir en sachant qu'il nous a rejoints? En fait, il y a plein de choses avec Lucas Hernandez. Déjà, il y a ses blessures. Il y
La
a.
nature de la dernière blessure.
Oui, surtout. Il y a le fait quand même que ça va poser peut-être des problèmes avec les ultras en début de saison. Vas-y, c'est un Marseillais quand même. Là, d'ailleurs, on a eu Condobia, le Parisien, qui va jouer à Marseille, et on a Hernandez, le
Mukele,
Marseillais, qui va jouer à Paris.
c'est un supporter de Marseille. J'ai pas entendu les ultras râler. Et même Galtier, ils l'ont pas fait. Par contre, Lucas, il faut.
C'est
Il y a
possible,
ça.
Alex, mais il faut pas s'enflammer.
Troisième chose, on va pas rentrer dans les détails, mais il a un extra sportif qui lui a causé des problèmes judiciaires. On sait déjà qu'au Paris Saint-Germain, on a tendance à avoir pas mal d'extra-sportifs. Est-ce que pour vous, je crois que c'est 45 millions, si je ne me trompe pas, ça avec les bonus, est-ce que pour vous, c'est un bon recrutement ou pas?
J'ai loupé, vas-y, Baston, j'ai loupé le nom.
C'est un joueur qui, si il est à son niveau, à 100% physique, au niveau qu'il a pu être, évidemment, une vraie plus-value, que ce soit au poste de DC ou pour doubler
Ah,
Nuno ou pour
putain.
garder un score en fin de match. Ça, c'est évident. Il a un caractère, une espèce de leadership et une hargne, et même, il n'est pas mauvais à la relance. C'est des défauts qui manquent à la défense parisienne. Maintenant, 45 millions pour un an de contrat, c'est-à-dire qu'on paye 45 millions sa dernière année de contrat. C'est son deuxième fois qu'il se fait les ligaments croisés. La première fois, il est bien revenu, mais revenir une deuxième fois des ligaments. Ouais, donc c'est quand même une prise de risque. C'est quand même, tu joues un peu à la bourse, quoi. Tu spécules sur le fait qu'il sera là, qu'il sera apte. 45 millions, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'à ce prix-là, tu pouvais aller sur Kim ou sur Potores qui pouvait correspondre en plus avec sa relance à ce que voulait Enrique. Maintenant, a priori, Enrique a validé Lucas Hernandez. On va espérer qu'il soit apte. S'il est apte, c'est une bonne recrue. Le prix me gêne. Et par contre, son côté supporter de Marseille, je m'en fous un peu. Ça me gêne moins que son côté judiciaire, comme tu as dit. Mais le
Draya, c'est juste pour avant de t'envoyer, j'ai oublié de préciser, ça a l'air à 19 millions d'euros bruts.
Gay voit tout le milieu du PSG actuellement. Je crois qu'il n'a pas regardé Everton cette année,
Et alors juste pour
Gay.
répondre rapidement à Laurent, ouais, c'est vrai, on n'a pas Pirlo dans l'effectif actuel. On se base plus pour toutes ces réflexions-là sur la manière avec laquelle joue Enrique et sur le fait que Enrique a envie d'avoir un 6 qui est un quarterback. Et clairement, on n'a pas le Pirlo et les réflexions, mais c'est plus en fait les réflexions par rapport à Busquets et la grande époque du Barça. C'est avec Xavi qui est en plus un très très bon créateur, mais qui avait aussi ce rôle-là de un peu chien de garde. Même si c'était aussi les centraux qu'il faisait, enfin, c'était construit un petit peu différemment avec, je sais plus comment il s'appelle celui avec les grands cheveux, Carles Puyol, qui remontait souvent au milieu, qui souvent remontait au milieu pour compenser. Et pour Lucas Hernandez, le mec, il s'est pris les croisés. On en a parlé il y a pas si longtemps. Moi, je pensais qu'il y en avait plus qui revenaient. Vous disiez aucun au début, puis finalement, vous en aviez trouvé quelques-uns, mais laborieusement, le mec, il s'est fait les croisés. C'est-à-dire que pour moi, Lucas Hernandez, c'était le bon frère des deux. Il y a des gens qui sont fans de l'autre, mais moi, s'il y en avait un des deux qu'il fallait prendre, c'était Lucas et pas l'autre. Mais déjà, avant, il se blessait souvent en plus dans des petits moments de la saison. Et là, il s'est fait les croisés. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend. Et on met 45 millions dessus. C'est encore de la grande gestion du Paris Saint-Germain, quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux dire de plus ?
Après, si le mec revient de blessure et ne se blesse plus, c'est un...
Oui, mais est-ce qu'il aura le même niveau qu'avant, s'étant fait les croisés ?
S'il revient au même niveau.
Ça fait beaucoup de si dans ta phrase, en fait. Hein.
Ah, oui.
C'est 45 millions pour autant de si, ça fait cher le million. Quoi.
Bah, on aime bien les si.
Par contre...
Ouais, mais on n'aime pas les millions.
Comme ça a été dit en commentaire, j'aime bien le fait qu'il soit là pour l'axe et pour remplacer Nuno, qui est souvent blessé. Mais là, quand même, on a trois mecs qui peuvent jouer arrière-gauche qui sont souvent blessés. Connaissant le Paris Saint-Germain, il serait possible...
Bernat, il va partir.
Qui, Bernat, il va partir ?
Oh, je pense.
Vu son salaire, je pense pas. Qu'est-ce que j'allais dire ? Imaginez qu'on arrive à finir avec Serif Naga en 8e finale de Ligue des Champions. Parce que ces trois mecs qui sont tout le temps blessés, et on est le Paris Saint-Germain, ça arrive tout le temps.
Danilo.
Serif Naga ?
Arrière-gauche, Danilo ?
Ah, arrière-gauche. Oula, ah oui, non.
Non, mais j'ai dit Serif Naga, je ne parle pas de Danilo.
Il a parlé, parce que s'imagine si on se retrouve avec Naga, qui est arrière-gauche, si Nuno et Lucas sont blessés. Et Bernat.
Je ne connais pas.
Il mettra Hakimi à gauche et Moukele à droite, non, dans ce cas ?
Ouais, franchement, c'était pas si mal la dernière fois qu'il a fait ça en fin de saison. Hakimi à gauche, c'est pas si dégueulasse que ça. Ça peut dépanner c'est plus que Bichabou, par exemple.
Tu voulais pas parler de Joao aussi ?
Oui, on va finir le sujet avec Joao. Je sais que Basto et Tonton doivent faire une vidéo là-dessus, donc Basto, ah, ne t'étend pas trop sur le sujet parce que
on va regarder un peu de
suspense. Mais Joao Félix serait une rumeur assez crédible en ce moment pour le Paris Saint-Germain. Déjà, de ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais là, actuellement, il était avec Mbappé et Hakimi à Miami. Il a aimé un post sur Insta sur l'arrivée d'Enrique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Son agent, c'est Georges Mendes.
Il a un t-shirt quasiment... avec une tour Eiffel.
Ouais, tous les joueurs qu'on a recrutés, quasiment tous, ils sortent de Georges Mendes. Donc là, c'est encore Georges Mendes. Il y a quoi encore ? L'Atlético veut s'en débarrasser. Le joueur aime le Paris Saint-Germain. Et voilà quoi, les trois parties seraient pour faire ce deal, je pense. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas, à part si l'Atlético est trop gourmand, à mon avis.
Mais c'est pas le bon. C'est pas qu'il est mauvais, hein, Joao Félix. C'est un très bon joueur, mais tu mets Neymar en 10, tu mets Joao Félix à gauche. Deux actions sur trois, ils sont exactement dans la même zone, en train de se gêner, en train de se marcher sur les pieds l'un de l'autre. On a besoin du même type de profil qui est à droite. On a besoin de Bernardo Silva. Joao Félix, on aime. Mais si t'as Neymar, ça pose problème. Donc, il ne faut pas prendre Joao Félix, il faut prendre Bernardo Silva. Il ne faut pas se tromper de Zozo, quoi.
C'est pas dans ce sens-là, moi, que rapidement. C'est pas il ne faut pas prendre Joao Félix, il faut prendre Bernardo Silva. C'est il ne faut pas prendre Joao Félix, il faut prendre un vrai neuf de surface. Parce que je pense que si Joao Félix vient, c'est pour jouer faux neuf. Et Enrique aime bien jouer avec des faux neufs, et c'est ce qui me fait très peur. J'adore Joao Félix qui a des airs. J'adore le regarder. Mais faux neuf, si on joue en faux neuf. L'Espagne à la Coupe du Monde, là.
Mais de toute façon, Basso, il y a aussi l'argument qu'il dézone souvent à gauche quand il prend une aile gauche, oui, et il va se retrouver inévitablement dans les mêmes zones que Neymar.
Après, si Neymar partait, pourquoi pas, etc. Mais, voilà. Mais ce ne sera pas le cas. Et pour moi, je pense que si on a l'idée de faire Joao Félix, c'est Joao Félix plus Bernardo, et on abandonne le 9. C'est ça qui me fait peur. Jouer avec un faux 9, ça me...
Yannas qui nous dit encore un joueur qui ne défend pas.
Ça, j'ai plus vu highlight ou dans les grands matchs, et j'étais pas attentif à sa participation défensive. Honnêtement, je peux pas en parler.
Je préfère Zach Félix, non, peut-être pas quand même.
Mais du coup, dans un 4-3-3, par exemple, de Luis Enrique, vous le mettrez où, Félix?
Bah, si tu dois le mettre quelque part, moi, enfin, le poste le plus cohérent, c'est à gauche. Mais si, où est-ce que tu mets Neymar? Tu mets Neymar au centre et enfin,
Sur le banc.
pour moi, ça marche pas. Voilà, ça marche pas.
Bah,
À limite,
peut-être,
tu prends João
Andreas.
Félix en remplaçant de Neymar et ça tourne entre les deux, quoi. Mais
C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Peut-être que en fait, qu'il n'y aura pas de problème, genre Félix Neymar, parce que Neymar joue que 25 matchs par saison.
Ton grand nom que tu as pris, tu ne le mets pas titulaire quand tu as ton autre grand nom qui est là. Non, les deux seront sur le terrain.
Puis si Mbappé reste, t'as trois mecs préférence axe gauche. Enfin,
Oui, bah, en plus, si Mbappé reste, laisse tomber. Non, mais c'est Bernardo Silva qu'il nous faut. Annonce Bernardo.
Bernardo, j'ai vu que City lui a encore fait une offre de
Ah bon,
prolongation avec une augmentation de salaire.
Alain, tout à l'heure, c'est celui qui disait que Mahrez, il avait 8 Silva par orteil. Donc,
Ah oui.
on n'a pas la même vision du foot.
João Félix peut jouer que 9,5. Non, je pense qu'il peut jouer ailier aussi. Hein.
Oui, il peut.
Bah, à
Après, il va
Chelsea.
vite s'en centrer, hein.
Il a pas mal d'actions. Il a pas mal d'actions sur la gauche de la surface, hein, Vasto. Il a pas mal
Bah, jouer
d'actions à
deuxième
partir.
attaquant ou 10 ou 9. Mais après, il peut jouer ailier gauche, mais il va.
Non, il en a pas mal, oui, Willy.
Il a pu jouer en soutien en 4-4-2 en fait d'un autre attaquant, puisqu'il faisait l'Atlético en tout cas.
Mais est-ce que Enrique il voudra un 9 déjà?
Bah, j'espère bien, hein. J'espère qu'il a vu que son Espagne sans 9, c'était un peu compliqué de marquer, qu'il faisait 9 000 passes par match pour faire trois frappes cadrées dans le match. Donc oui, j'espère qu'il a compris. En Espagne, il n'avait pas le choix, il n'avait pas forcément 9, quoi. Il avait Morata, mais lui aussi, c'est un espèce de faux 9. Donc j'espère qu'il a vu qu'il lui manquait un 9 de surface.
Mais le souci, Tom Soflaco, c'est que t'as Neymar qui est tout le temps à gauche, quoi.
Et justement, il y a un petit chien qui nous dit, dans le cas où Mbappé part, est-ce que ça règle pas le problème de à gauche du coup?
Faudrait que Neymar parte. C'est surtout Neymar qui est tout le temps à gauche. Après, Mbappé aussi, oui. Mais c'est Neymar. Surtout qu'en plus, si tu veux, la différence, Mbappé, il est à gauche, vraiment devant. Alors que les deux autres, ils sont à gauche dans les 20-30. Et ils sont vraiment dans la même zone. C'est plus, tu vois, t'aurais Joao avec Mbappé, ça passe. Mais c'est plus Joao Neymar pour moi où ça coince.
Ah, ça se marche sur les pieds, hein.
João Mbappé, déjà qu'on a une équipe qui penche à gauche, tu fais ça, tu vas avoir sur 5 mètres Nuno Mendes, Mbappé, João Félix, ils vont être dans la
T'es
même.
obligé, t'es obligé d'avoir un mec, t'es obligé d'avoir un mec très très solide à droite qui propose beaucoup de choses à droite, oui.
Du coup, Bernardo Silva.
Typiquement.
João
Rappelle-nous
Bernardo.
Bernardo. Même si Alain n'est pas d'accord, il faut nous ramener Bernardo.
C'est pas une bonne idée, João. Prenons Chiesa, Bernardo et un gros neuf.
Ah non, mais Chiesa a
Il
une
est
blessure.
fou. Il est. Bah après, si tu veux, tu vois, tu dis ça de Chiesa, tout à l'heure, t'étais si Lucas Hernandez retrouve son nouveau, bon, c'est la même. Hein.
Chiesa, il a jamais été dans le top 10 non plus.
Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour des sujets. On va prendre les questions avant de vous laisser. Qu'est-ce que j'avais noté comme question?
Pour jouer au foot, Alain, pour jouer au foot.
Est-ce que vous êtes favorable à un retour de Moussa Diaby qu'on avait comme question tout
Fofana,
à l'heure?
mais ça n'a rien à voir,
Non, mais
Fofana.
là,
Qui me raconte?
peut-être qu'il troll.
Et
Peut-être qu'il troll.
Julien, tu étais en train de faire
Peut-être
le
qu'il
tour
troll.
là, Alain Philippe, en ce moment.
C'est possible qu'il troll.
Il
Alors,
tweet de son vélo. C'est pour
on va
ça.
espérer, on va espérer pour lui qu'il troll. Parce que préférer Fofana à Bernardo
Retour
Silva,
Moussa
peut-être qu'il troll.
Diaby. Allô la Terre.
Oui, retour Diaby? Non.
Oui. Non.
Non. Wissi Brand, bah, il faut en trouver un autre. Hein. Faut en trouver un autre. Si on n'a pas, si Bernardo ne vient pas, vous faites quoi? Bah, faut trouver. En fait, c'est l'axe droit du Paris Saint-Germain est un parent faible de l'attaque depuis. Ça fait combien d'années maintenant? 4 ans. C'est la dernière fois qu'on avait. Enfin, depuis le départ de Di Maria, de manière certaine. Et même un peu avant, parce que Di Maria était. Voilà. Et on a un vrai déficit devant à droite. Il faut qu'on recrute quelqu'un qui est fort. Alors, on a un besoin impératif d'un neuf. Et si tu prends le neuf, bah, effectivement, tu vas devoir t'asseoir sur cette priorité-là. Mais pour moi, c'est quand même une priorité super importante. Un offensif, ou en tout cas un 8, enfin, typiquement Bernardo Silva, ou un profil comme lui, qui a son côté préférentiel droite. On parlait tout à l'heure d'Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre aurait pu tenir le rôle, mais il est trop frais. C'est trop tôt. C'est trop tôt pour que tu partes avec lui avec autant de responsabilités dès une première saison. C'est trop tôt. Mais ce genre de profil ont un petit peu plus fort. Alors, pas forcément Bernard de Silva. Bernard de Silva, c'est la crème de la crème. Il est a priori sur le départ. Ça serait un coup douce de le louper, mais...
T'as la Sarah qui parle de ton joueur.
Ah, ben, Koudous, c'est un cas particulier. Koudous, il a joué 10, il a joué ailier, il a joué 9, il a joué 8, il a joué 6.
Et il joue 9 hein, cette année maintenant.
Donc, c'est un joueur qui est assez compliqué. Et c'est très compliqué de le mettre sur un terrain. Tu sais pas où le mettre puisque tu peux le mettre partout. Et le truc, c'est qu'il est bon partout. Mais est-ce que c'est le genre de 9 dont tu as besoin au Paris Saint-Germain? Je pense pas. C'est plus un œuf, enfin, t'as plus besoin d'un. Tu vois, là le fantasme à l'heure actuelle.
Non, mais il en parlait en aile droite, si pas Bernardo.
Ah, c'est pas son. C'est pas, il a vraiment un côté axe préférentiel, Koudous. C'est un mec qui peut partir à droite, mais qui va avoir tant souvent à se recentrer. C'est pas. Il peut jouer ailier, hein, il l'a fait. Mais c'est vraiment pas son point fort. C'est vraiment pas son point fort. Moi, si j'ai Koudous, j'utilise 10, en fait.
J'ai vu quelqu'un parler d'un petit qui,
Salah,
qui est
ouais, non,
pétri Salah, de talent. Il est pétri de talent. Mais le problème, c'est qu'il est représenté par la mauvaise famille et qu'il n'est pas encore pro max, mais il a du talent. J'ai regardé encore son match avec les espoirs. Et je vous ai vu parler de Ryan Cherki. Moi, franchement, si on parle de talent pur, tous les jours. Après, ouais, pur, je crois qu'il lui manque encore quelque chose. Et je ne sais pas si c'est quelque chose, il pourra le travailler au Paris Saint-Germain.
Il arrive à être collectif ou toujours pas?
Si, il a fait une passe en Euro Espoir.
Est-ce qu'il arrive à être collectif dans sa mentalité?
En fait, à Lyon, j'ai
gagné.
À Lyon, la plupart des supporters étaient pour une vente hein, de Cherki. Alors, il y en a qui l'adorent parce qu'effectivement, en termes de talent pur, mais comme les gens pouvaient adorer Menez ou Ben Arfa, Cherki. Il énerve pas mal les supporters parce qu'il est quand même ultra irrégulier. Alors, à l'Euro Espoir, il fait des superbes entrées. C'est vrai que son entrée 30 minutes où il te fait des passes caviar, des bonbons à gauche, à droite, là, il joue intelligemment, mais des fois, il va rechuter, il va faire les mauvais choix, peut-être dans le guidon, pas lâcher la balle au bon moment. J'ai un peu de mal avec ces joueurs qui sont sur un courant alternatif. Il m'énerve, ce type de joueur.
Moi, il y a un truc qui m'agace, c'est tout le monde a vu un truc solaire cette saison et tout le monde, en fait, si tu veux, tout le monde a mis tout sur le dos de solaire. Il y a un moment où il faut peut-être réaliser que le coach, il s'appelait, et d'ailleurs, il s'appelle toujours, hein, soit dit en passant, Christophe Galtier. C'était pas un génie tactique. Et il a utilisé solaire, mais d'une manière, jamais solaire, il aurait pu jouer comme ça. Est-ce que solaire est taillé pour le Paris Saint-Germain? Non. Maintenant, il est là et c'est un joueur que Luis Enrique apprécie. Donc, déjà, soyez pas surpris si de tout temps en temps vous le voyez aligné cette saison, ça me surprendrait carrément pas. Et ensuite de ça, bah, peut-être que tu peux t'organiser différemment et jouer. Alors après, sinon, tu peux rester sur tes certitudes que tu t'es construit pendant une année et arriver à des certitudes définitives et pas pouvoir les remettre en cause si tu veux. Mais je vous invite à regarder les matchs que faisait Solaire avant et vous rendre compte que bah, cette année, il a été utilisé de n'importe comment par un coach qui, c'est un peu dur de le dire, mais faisait de la bouillie tactique. Soyez pas aussi définitif, quoi. Laissez-lui encore une chance.
Il y a PKO TV qui nous dit quelque chose, une définition de Ryan Cherki. J'ai l'impression de voir la définition de Marco Verratti. C'est typiquement le même type de joueur. Il te dit, Cherki, il lui manque la rigueur et la discipline. Il ne va l'acquérir qu'à l'étranger, ce que je disais tout à l'heure. Hors de sa zone de confort, mais c'est un joueur au talent inné. C'est exactement quand je vois Marco Verratti, que tout le monde dit qu'il aurait pu être top 3 milieu de l'histoire. Pour moi, c'est les gens qui disent ça, ils ne sont pas fous. Le problème, c'est que rigueur et discipline, il ne l'a pas. Et Cherki, c'est ce qui lui manque, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il aura ça au Paris Saint-Germain. Le petit, il va aller au Real Madrid, par exemple, ou dans un club où il ne va pas faire ce qu'il veut.
Je ne crois pas, moi.
Je pense que ce petit-là, il peut aller très, très, très loin. Tu le mets sur Guardiola, par exemple. Guardiola, il te le met au carré.
Peut-être Guardiola, mais ce serait un des rares, en vrai. Ce serait un des rares. Parce qu'il y a un moment où, si tu veux, il y a l'attitude compte beaucoup. Il y a la volonté compte beaucoup. Enfin, quand un mec, il ne veut pas et qu'il peut se reposer parce qu'il a toujours été surclassé, parce qu'il avait toujours eu le talent, raconte-moi des success stories comme ça, de mecs qui faisaient un peu Pornawak, mais qui avaient le talent pur et qui sont devenus monstrueux parce qu'ils sont allés à l'étranger. Donne-moi 10 exemples parce que je suis sûr que je pourrais t'en trouver 100.
Dembélé, il a explosé à Dortmund. S'il était resté à Rennes, il aurait resté à Rennes. Il avait déjà des problèmes de comportement.
Mais Dembélé était plus consistant. Je ne dis pas que Dembélé, en termes de niveau haut, était plus fort que Cherki. Je dis que sur des saisons, il était plus consistant. La saison qu'il fait, saison que fait Dembélé à Rennes, non, mais c'est à Rennes qu'il était.
Mais à Dortmund, la première année électorale, c'est sa meilleure année all-time.
Oui, mais moi, je parle de la saison qu'il fait à Rennes. On en parle comme d'une très, très belle révélation de la Ligue 1, d'un joueur qui a pesé sur le championnat. Tu vas parler aux Lyonnais de Ryan Cherki, tu vas voir qu'ils ne vont pas te dire ça sur Ryan Cherki. C'est un joueur qui les a enflammés par instant sur certains matchs. Et tu ne peux pas le comparer à Dembélé. Et si on parle de Dembélé, on va au bout de Dembélé. Est-ce que Dembélé, il a vraiment explosé? Pas tout à fait. Il manque encore une étape.
À Dortmund, franchement, c'est pas pour rien qu'il a été acheté 160 millions d'euros. C'est parce que tout le monde disait que.
Mais il a pas. Mais on parle d'un joueur qui est beaucoup plus consistant que ne l'est Ryan Cherki. Trouve-moi un joueur qui est aussi, tu sais, genre, ouais, je joue quand je veux et puis ouais, je vous fais vos trois passes et me faites pas chier, qui est un peu l'attitude de Ryan Cherki, qui ensuite a explosé. Tu pourras. Si t'arrives en citer trois,
ça l'a pas fait quoi. Tu vois, Cherki, je vois plus. Tu comparais. C'était à Verratti que tu comparais top 3. Moi, je le comparais plus à un mec comme même Villa, tu vois, donc qui était titulaire à Rennes.
Qu'est-ce qu'il était fort, lui ?
Parce qu'il était déjà aussi inconstant, mais c'est vrai qu'il était ultra fort, même Villa.
Vraiment, il gâchait ce joueur, il était tellement fort.
Et il a explosé en vol.
Il y a David qui nous dit, est-ce que vous ne pensez pas que Luis Enrique pourrait encadrer Cherki pour qu'il... parce qu'il a assez de poigne pour le faire.
Moi, j'y crois pas à ce genre de joueur, de toute façon. Quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être qu'un Guardiola, parce qu'il l'enfermera dans son bureau tous les soirs pendant une heure jusqu'à ce qu'il comprenne, mais de toute façon, il ne le recruterait jamais parce que ça représenterait trop de temps de travail. Mais je pense qu'aucun coach en fait peut s'en sortir.
Enrique veut des joueurs de système, c'est pas un système.
C'est trop compliqué.
Bon, ben, j'ai compris, vous n'êtes pas pour le dossier Cherki.
Tous les grands clubs, il n'y a que United qui a fait une offre. Hein. On va se calmer sur tous les grands clubs qui sont dessus. Et il vaut que 20 millions. Hein.
Osimhen, sorry buddy, c'est très très fort Osimhen.
M. Villa, c'est la boîte possible, ça je ne sais pas sur M. Villa.
Je ne vais pas confirmer, même si...
même si t'en as, tu ne le dément pas.
je veux me taire là-dessus.
T'étais dans la voiture, Nick, ça vous.
Ah ?
T'étais dans la voiture, Nick, ça vous.
Non, ça se fait pas de... Bref.
Il y avait Griezmann, il y avait qui d'autre.
Il y a un psychologue avec Enrique qui peut aider Cherki. Non, franchement, bah, comme j'ai dit, je suis d'accord avec mes deux collègues. Cherki, pour moi, ça risque d'être un très très bon joueur. Mais le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il va pas être cadré pour devenir ce gros joueur. Donc moi, perso, je le prends pas. Et je sais que dans quelques années, il va probablement exploser quelque part. On va se dire pourquoi on l'a pas pris au Paris Saint-Germain. Mais je pense pas qu'il aurait eu la même trajectoire s'il vient chez nous.
Jackson, c'est vrai qu'il y a un psychologue. C'est vrai que Ronaldinho, c'est vrai qu'il est un des rares coachs qui ramène un psychologue dans son staff.
Ça n'a rien à voir, Ronaldinho, David. Avec Cherki. C'est incomparable. Ronaldinho, c'est le mec qui n'était pas bon parce qu'il était trop bourré de la veille. C'est pas la même chose.
Ou alors, il était excellent parce qu'il était trop bourré de la veille.
Ah, ça va. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a bu à Barcelone?
Y a quelqu'un qui nous a demandé « Coucou, votre milieu de rêve au Paris Saint-Germain ?»
De rêve.
Ouais.
Oh.
Mode PlayStation. Je mets Rodri en 6. Je mets Kimmich à droite. Et si on est en milieu à 3, à gauche, qui je mets?
Hein? Tu mets pas ton Gundogan? Tu lâches ton Gundogan?
Non, Gundo, maintenant il commence. Pour moi, il est sur pente descendante. Qui prendrait à gauche avec. Mais profil Gundo, en fait. Mais oui, Gundo.
En fait, c'est le City, Rodri de Brune Kovacic.
Mais en fait, toi, tu le déséquilibres sur la droite. Moi, j'ai pas été parti pour le déséquilibrer sur la gauche. Faites votre choix. Mais Rodri, oui, c'est le 6. C'est presque le 6 par définition, maintenant, Rodri.
Je sais pas, vous pensez quoi de De Jong en 6 ?
Pourquoi on a fait Rodri en 6 au PSG n'importe quoi ? On n'a pas dit qu'on allait le recruter. Hein. On nous demande le milieu de rêve. Évidemment que Rodri ne viendra pas.
Oui,
bien sûr. Il en veut pas en 6. Je suis encore en tueur.
De Jong, il a, enfin moi je le voyais très très beau dans ce rôle-là. Il a, et après,
comment il a été. Avec Enrique, si. Il peut même le mettre DC, il peut le mettre CC. Ouais,
mais la problématique, c'est qu'il a joué pendant un an. Alors, je n'ai pas suivi cette saison. Il était toujours à Barcelone, non?
Oui.
Ouais, voilà, il était baladé 8, il était baladé, etc. etc. C'est pas clair. Mais en profil, ça peut être un très bon 6.
Moi, franchement, je pars.
Barella, c'est pas un 6, Cyril.
Moi, je le prends, De Jong. Hein.
Moi, c'est ça. Moi, perso, Rodri, je sais qu'il a plus prouvé et tout ça dans les grands matchs. Mais si je prends le côté joueur que j'aimerais voir, truc de rêve, je mets De Jong en 6 direct. Barella en 8. Avec qui d'autre que je mets en 8 avec Barella? Barella. Quelle 8 que vous mettriez, vous?
En plus, regarde, De Jong. De Jong, ça marche avec ce qu'on disait tout à l'heure de Ugarte qui serait plus 8 que 6, parce que De Jong, c'est un mec qui va faire la première relance. Ugarte va chasser haut, mais une fois qu'on aura le ballon, De Jong, il est capable ensuite d'aller continuer,
oui,
d'aller
proposer dans les 25 avec Ugarte, il serait plus bas. Et à ce moment-là, mais dans ces cas-là, il ne faut pas forcément que tu aies Bernardo Silva de l'autre côté, parce qu'il faut que
tu sois capable. Que Rodri.
Quoi?
Paredes est meilleur que Rodri pour Alain Philippe. Je pense
qu'il n'a pas dit Rodri, donc on va présumer.
Il troll depuis tout à l'heure. Il troll depuis tout à l'heure.
Il dit on n'en veut pas au PSG de Rodri juste avant. Pourquoi pas garder Paredes?
Arrête. Il faut qu'on arrête de lui répondre. Le mec, il nous troll depuis tout à l'heure.
J'ai réussi à trouver mon troisième joueur. Ça va être Kevin De Bruyne, effectivement. De Jong, Barella, Kevin De Bruyne. Voilà. Là, on est bon. C'est mon milieu de rêve.
Okay.
Vous avez fini votre milieu de
rêve? T'as des petits soucis défensifs à ton milieu de rêve quand même, je pense.
Bah Barella, il est bon des deux côtés. De Jong, il est
Barella
bon
défensivement, c'est pas, c'est pas mauvais. Pas mauvais.
Si.
Si.
Barella, c'est le.
Non. Franchement, quand j'ai regardé la finale face à City, pendant toute la première mi-temps, il est quasiment exceptionnel. C'est lui qui équilibre quasiment toute l'équipe. La deuxième mi-temps, il a plongé et tu remarqueras que la deuxième mi-temps, c'est là où l'Inter prend des buts. Il a été très bon au moment où il a chuté, l'Inter a chuté.
Ben peut-être. Alors, mais moi, je le vois pas comme un. Je vois un mec qui est capable de défendre un peu comme Rodri, se défendre en avançant, etc., etc. Pas forcément avoir un impact pour aller récupérer les balles dans les pieds et tout. Mais je me trompe peut-être, mais je le vois pas faire ça.
Alors, ton milieu de rêve, Alain Philippe, c'est Verratti, Fofana ou...
Arrête de passer ce message, j'ai trouvé une fois depuis tout à l'heure. Bien joué d'ailleurs, parce qu'au début, moi, je suis tombé dedans.
Qui a quoi d'autre? Une idée de doubleur...
C'est vrai, le mec, il trolle pas, tu sais.
Fofana, il a signé en Arabie Saoudite.
Non, mais franchement, les gars...
Avant 9 ans, c'est un peu triste d'ailleurs.
Je comprends pas, j'ai jamais compris la hype Fofana pour le Paris Saint-Germain. C'est un très bon joueur, limite sur courant alternatif. Ça veut dire que, par exemple, quand il a joué contre nous, quand il a joué contre Marseille, il était très, très bon. Il était meilleur que tous nos milieux de terrain. Mais c'est typique, le mec contre Strasbourg, bah, il n'est pas là. Contre Rennes, il n'est pas là. Et en fait, c'est un mec, pendant les grands matchs, il se met son costume. Mais tout le reste de la saison...
Le meilleur milieu de Lens cette année, c'était Saved. Hein. C'était pas Fofana.
Bon.
Kefred, faut le prendre.
Non, vraiment pas.
Écoutez les gars, si vous avez plus de questions, je regarde vite fait les commentaires. On va voir si on prend une dernière question. Il y a Eve qui nous parle de Amrabat.
Bah avec Enrique, surtout pas.
Non. Mais le truc en plus, c'est que t'as déjà recruté Ugarte.
Oui, bah oui.
Du coup, aller recruter un profil similaire à Ugarte, t'as pas besoin, quoi. Enfin, ou sinon, ce serait vraiment problématique de Rich, ce serait pour mettre Amrabat sur le banc, ou Ugarte sur le banc, j'en sais rien. Enfin, le meilleur joue, quoi. Voilà. Mais non, t'as déjà récupéré. Tchouaméni, il est au Real, Sabri. Le Real n'a pas l'intention de le vendre, que je sache.
S'il y a une offre pour Mbappé. Il y a vu qu'il joue pas, il est sur le banc un peu. En plus, ils ont pris Bellingham. S'il y avait Mbappé, c'était mettre sur Mbappé, mais c'est pas aller plus loin que là.
Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu as un Ugarte, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un 8 du profil de Tchouaméni? C'est la question. Après, ce qui manque avec Ugarte, c'est la réponse défensive que Ugarte n'amène pas et qui, mine de rien, est un problème. Et c'est là où tout à l'heure on parlait de Savic. Savic aurait résolu ça. C'est le problème de la taille dans ton milieu, quoi. Parce que si tu pars sur entre moi mon milieu avec Ruiz, mais qui Ruiz il a une tête, il est grand, mais sa tête elle sert à rien. Ugarte et Vitinha, tu récupères rien de la tête. Et là, tu te retrouves avec Marquis en 6 et là, tu es en PLS.
J'aime bien ton analyse, c'est trop tard. Ouais. C'est trop tard. Échange-toi Tchouaméni, Mbappé plus 100 millions. Est-ce que vous prenez?
Je préfère 250 cash.
Moi aussi, je crois.
Je pas entendu la question.
Un échange Tchouaméni versus Mbappé plus 100 millions.
Je préfère les 200.
Ouais. Ouais, moi, je ne suis pas fan de Tchouaméni. Je n'ai pas compris la hype à 100 millions.
Ça, c'est un bon joueur, mais...
Kessié, non, mais ne me parlez pas de Kessié. Vous le faites exprès. Regardez sa dernière saison à Milan et sa saison au Barça. Donc, Kessié, je déteste ce joueur.
Bah, écoutez,
après,
les gars...
Après, beaucoup qui l'aiment. Peut-être moi qui ai tort.
Il nous faut un milieu technique et créatif avec du volume.
Ouais. Bah,
le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, ils ont compris ça, mais sauf... Ils ont compris, il faut trois joueurs, un milieu technique, un joueur créatif,
c'est
un
ça.
Joueur.
Et celui qui a du volume.
Mais ils ont compris qu'on peut avoir trois
joueurs. On peut des monotaches.
C'est typique de ce club, c'est un truc de fou. Bon, les gars, bah écoutez, ça fait une heure et demie qu'on est live, n'hésitez pas à liker. Et d'ailleurs, la dernière fois, vous m'avez barbé, les gars, parce qu'on a dit après le live. Vous allez sur Spotify, Apple Music, tout ça, nous mettre 5 étoiles. J'ai regardé, il n'y a personne qui l'a fait. Il n'y a absolument personne qui l'a fait. Vous m'avez dit dans les commentaires, on y va. Donc cette fois-ci, je vais regarder. Allez-y, Apple Music, Spotify, ça nous aide à monter dans le référencement. Donc on est encore plus... Là, vous voyez, on est 250, on aurait pu être 500, ça aurait été encore plus marrant, tu vois. Donc, n'hésitez pas à liker, mettez des commentaires sur les plateformes audio, Spotify, Apple Music, tout ça. Mettez des 5 étoiles, mettez des commentaires, ça nous aide. Et Dreyas, vas-y, on t'écoute.
Je voulais juste dire, à part le nordiste, faites pas votre A, lâchez votre pouce.
Ouais, oui.
Wow. Elle est pas ouf, mais bon, allez.
Zamboin Guissa Caicedo.
Juste un pouce, quoi, juste un pouce, là, juste en dessous de la vidéo.
Caicedo, mais il va partir à Chelsea, je crois.
Bon. Voilà. Bah écoutez, mettez le pouce bleu, mettez un like. Franchement, il y a un truc, je vous dis les gars, moi je comprends pas, il y a v'là les youtubeurs, ils ont plus de pouces que nous, alors qu'ils ont moins de vues. Ça veut dire que notre audience ne nous aime pas. Genre les mecs, ils ont moins de vues que nous, ils ont plus de pouces, c'est quoi ça? Ça veut dire que là, vous nous regardez tout le temps, vous êtes 250 et vous aimez pas, vous likez pas. C'est terrible de faire ça. Bon, les gars, on vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, et c'est un plaisir de faire des samedis avec vous ou les autres jours. On va essayer de publier des vidéos dans la semaine. Restez connectés à Paris Central. Et puis voilà, bon week-end là, tu vois.
Ciao.